systèmes d'intelligence artificielle qui vont notamment pouvoir doubler les comédiens étrangers avec leur voix d'origine prononçant le français. Et le système d'intelligence artificielle sera même capable de reformer le mouvement labial directement dans le film. Donc on pourra générer finalement une copie française du film existant. Et donc les doubleurs, traducteurs, sous-titreurs sont sans doute les premiers impactés. Ils le sont déjà, puisque les intelligences artificielles sont déjà à l'étude et en usage dans ce domaine-là. Et que d'ici 5 à 10 ans, ça sent un peu le roussi, on va dire, pour une partie de la profession. Et là, on est moins dans le génératif, mais plus, on va dire, dans un travail de mécanisation, d'un travail de traduction et d'adaptation.
Je rebondis parce que Brut, le média Brut, a publié cette semaine un post sur LinkedIn où justement ils montraient comment ils avaient utilisé cette technologie qui marche déjà très très bien en fait pour doubler un journaliste français dans ces vidéos qui sont publiées partout sur Brut Espagne, donc valable dans tout le monde hispanophone et Brut UK, avec un labial absolument parfait et sa propre voix qui a été effectivement clonée, traduite. Avec une petite indication en bas pour dire qu'il s'agit d'un produit purement généré par l'intelligence artificielle. C'est quand même de la, enfin pour moi, ça reste de l'IA générative. On génère quelque chose qui n'existe pas, on modifie un visuel et un texte. Mais voilà.
Non, ne demandez pas à la juriste de vous expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle. Nous avons la chance d'avoir deux spécialistes. Non, non, mais moi, j'ajouterai rien, si ce n'est que je pourrais vous dire les questions juridiques qui, évidemment, découlent de l'aspiration des contenus, mais je pense qu'on va y
venir. On va y venir, justement.
Et du coup, je rebondis aussi sur ce que vous disiez par rapport à la traduction, parce que j'ai lu moi-même hier dans l'excellente newsletter de Gilles Guérast.
Alors, générative, excellente newsletter auquel je vous invite à vous. Je n'ai pas de part dans cette newsletter, mais si vous avez le temps de lire des newsletters régulièrement, elle sort une fois par semaine. Elle s'appelle Générative et c'est donc Gilles Guérast qui la publie toutes les semaines et qui est vraiment axée sur tout ce qui va être créatif. Donc, texte, scénario, mais aussi visuel. Il est très branché. C'est un réalisateur, donc il est très branché image. Voilà. Fin de la.
C'est super anxiogène, mais très utile. Puisque, notamment parce qu'on parlait de traduction, j'ai lu donc hier soir dans la dernière édition de la newsletter que des logiciels d'apprentissage de langue gratuits ont viré déjà une partie de leur staff de traducteurs qui deviennent en fait des correcteurs d'IA, c'est-à-dire de choses gérées par IA. Ils sont de simples relecteurs et correcteurs, donc c'est déjà très présent.
Ça sera certainement aussi le cas très rapidement pour toute la chaîne de doublage, sous-titrage. C'est-à-dire que c'est là où les professionnels, notamment les comédiens, ont un rôle à jouer en devenant des superviseurs. Parce qu'on aura certainement sur la machine des difficultés à prononcer dans la bonne intonation, de faire la bonne adaptation du ton sur certaines répliques. Et c'est là où on aura besoin d'un comédien français pour donner le ton, sachant qu'après, il sera à nouveau recloné par la voix du comédien d'origine. Donc ça sous-entend que peut-être les comédiens qui s'occupent de doublage ont intérêt à devenir des superviseurs en se formant notamment à toutes ces technologies, de manière à pouvoir générer toute la chaîne de doublage sous-titrage pour d'une certaine façon, parce qu'on aura toujours a priori besoin, en tout cas au début, de quelques comédiens pour, on va dire, faire les bouche-trous pour essayer de réenregistrer certaines parties. Donc voilà, c'est là où sans doute les professionnels ont d'urgence besoin de se former et de s'adapter.
Est-ce que tu voudrais dire que finalement, ce n'est pas l'IA qui volerait nos métiers, mais ceux qui savent se servir de l'IA? Attention, on lance
Ça
le
fait
débat.
partie des enjeux, notamment pour les auteurs aussi.
Oui, tout à fait.
Ce qui est inquiétant, c'est que tu dis, en tout cas, au début, ça laisse un petit peu aussi une
Aujourd'hui, on sait
perspective inquiétante.
que pour les voix, en l'état actuellement des choses, en l'état actuel des choses, pardon, l'IA n'arrive pas à générer des intentions de jeu. C'est-à-dire qu'on peut avoir d'excellentes, en tout cas excellentes dans le sens technique et qualitatif, des voix générées par l'intelligence artificielle sur des vidéos corporate, par exemple, où il n'y a pas tellement d'intention de jeu, où il n'y a pas vraiment de direction d'acteur, et on a quelque chose d'assez monocorde, d'assez corporate, et ça devient très difficile de détecter si la voix a été générée ou non par l'intelligence artificielle. Tout ce qui est pour l'instant direction d'acteur avec des vraies intentions, elle n'en est pas encore capable. Évidemment, on sait qu'elle le
Ça en
sera.
prend le chemin et en plus, les intelligences artificielles apprennent des corrections que les humains font sur leur travail. Donc, c'est tout ça est bien sûr en voie d'amélioration.
Intelligence machine.
Voilà.
Ouais.
Et du coup, pour revenir sur, j'allais dire du concret, on est déjà bien dedans, mais par rapport à votre rapport personnel à l'intelligence artificielle, comment est-ce que vous en avez pris connaissance ou vous y êtes intéressé ou même est-ce que vous l'utilisez vous-même aujourd'hui et de quelle manière?
Moi, j'en ai pris conscience en juillet 2022, réellement. C'est vrai qu'avant, les IA génératives de contenu comme Crayon, n'étaient pas tellement, elles n'étaient pas flippantes parce que les contenus qui étaient générés étaient tout simplement pas efficaces. Et surtout, c'est vraiment l'arrivée de Midjourney, je pense, qui a effrayé nos illustrateurs parce que d'un seul coup, cette IA combinait deux qualités, selon moi, c'est l'efficacité et la simplicité. Simplicité parce que même moi, je suis arrivée à faire des images via Midjourney, ce qui est déjà une prouesse. Mais du reste, c'est vraiment efficacité au sens où ça fait la blague. Voilà. C'est-à-dire que tout de suite, on a un contenu qui vient directement concurrencier celles et ceux qui, dont faire des illustrations, c'est le métier. Donc moi, c'est vraiment en juillet 2022 que je suis interpellée parce que perte d'activité sèche déjà courant l'été 2022. Et puis alors, depuis, je ne vous raconte même pas ce qu'on entend. C'est assez inquiétant. On pourra y revenir. Mais à titre personnel, oui, je m'en sers parce que j'ai besoin de savoir aussi comment ça fonctionne. C'est-à-dire ne serait-ce que en promptant, je ne sais pas moi, à la manière de tel artiste ou de mettre des œuvres aussi protégées au titre du droit d'auteur et de voir que finalement Midjourney ou Stable Diffusion sont tout de suite dans la proposition de contenu qui sont clairement des démonstrations, s'il en fallait une, qu'il y a bien une mémorisation et donc une reproduction des œuvres. Et donc justement, toutes ces questions juridiques, elles découlent seulement si on l'utilise, sinon on est ignorant, quoi.
Oui, moi, c'est, du coup, prise de conscience un petit peu plus tardive que toi, puisque c'était janvier 2023 et c'était plutôt ChatGPT qui m'a striké, puisque j'ai perdu un appel d'offres sur un appel d'offres pour une société dont je tairai le nom et une boîte de production dont j'ai tairai le nom, mais j'ai su après que le script et le concept qui avait gagné était généré par ChatGPT. Et c'est vrai que j'ai eu des débats enflammés, j'imagine comme vous tous à table, entre les pros, les contres. Moi, j'étais plutôt très contre, en me disant, mais non, mais moi, j'ai une patte, j'ai une écriture, jamais une machine pourra la copier, etc. etc. Et puis bon, comme tu le dis très bien, à un moment, si on veut en parler, il faut quand même mettre le nez dedans pour savoir de quoi on parle. Donc j'ai fait le test avec ChatGPT sur un autre appel d'offres sur lequel j'étais. On peut le dire, j'avais le syndrome de la page blanche, là, on parlera, ça peut quand même servir. Et puis, mine de rien, ça m'a quand même un peu interpellée, pas forcément par la qualité de la réponse, mais en me disant, OK, ça me fait un ping-pong. Quand on ne sait pas quoi écrire, quand on est bloqué, c'est pas mal d'avoir un co-auteur, et on n'en a pas toujours un sous la main. Et finalement, on y reviendra peut-être, mais moi, je sais que, par exemple, ChatGPT, je m'en sers pour commencer à amorcer une réflexion quand je sèche. Ça, parfois, j'en ai pas du tout besoin. Parfois, j'en ai besoin. Et une fois qu'il me donne des idées, mon petit tuyau, c'est d'aller à l'opposé de ce qu'il me propose. C'est-à-dire que s'il m'a dit ça pourrait être un bon scénario, je me dis donc ça n'est pas un bon, ou alors il existe déjà, puisqu'il est inspiré de trucs qui existent déjà, donc par définition, je suis en train de plagier quelqu'un ou plusieurs personnes involontairement. Par contre, il met l'accent et il souligne quelque chose qui n'est pas forcément inintéressant, et en prenant le contre-pied de ça, je vais peut-être vers quelque chose de nouveau, et ça, c'est du brainstorm. Donc dans cette mesure-là, je m'en sers. Et puis évidemment, je me suis essayée à Midjourney, je me suis essayée à HiGen aussi, en génération d'images vidéo, parce qu'on ne va pas se mentir, en tant que réalisateur, là, pas en tant que scénariste, mais pouvoir donner vie à des images comme ça, gratuitement ou presque, versus avant un fond vert, un studio, etc., quand on est en autoprod, ce que je suis régulièrement, ce n'est pas complètement inintéressant. Voilà.
Alors, ce qui me concerne sur l'intelligence artificielle, on l'a dit, ce sont des technologies qui sont quand même assez anciennes. Et donc, j'ai vraiment commencé à m'y intéresser à partir du moment où je suis rentré au SNAC aussi, parce qu'on a beaucoup de gens qui sont des compositeurs de musique, et la MAO, la musique assistée par ordinateur, c'est un vieux sujet, un vieux débat qui remonte déjà à plus de 10 ans. Donc, y avait déjà des prises de position et des discussions à ce sujet-là, notamment sur évidemment les questions de droit, les questions éventuellement de données, d'inspiration ou de formation de ces logiciels. Donc voilà, et évidemment, comme tout le monde, j'ai pris le train en marche aussi de ChatGPT et de Midjourney, avec un usage, moi en tant qu'auteur, effectivement, qui me permet à la fois de générer, de travailler évidemment sur la créativité, sur le démarrage des projets, possiblement d'en faire un assistant tout au long du développement du projet, puisque lui, il a la mémoire de toutes nos discussions, donc ça me permet de lui demander de me rappeler des choses ou d'enrichir, etc., ou de prendre en note certaines choses. Et puis on peut faire beaucoup de choses, en fait, quand on commence vraiment à manipuler le langage et les prompts de l'IA. Et puis, je m'en sers aussi. J'ai commencé à regarder, alors sur des projets perso, puisque en script doctoring, évidemment, j'ai un devoir de secret professionnel et je ne peux pas mettre des données dans la machine qui ne m'appartiennent pas, mais je l'ai fait sur des projets personnels de script doctoring et il se trouve que ce n'est pas inintéressant d'avoir aussi une IA script doctor qui aide éventuellement à se poser des questions, à se poser des questions sur ses propres projets. Et ça, ça peut être effectivement l'une des utilisations. Il y a d'ailleurs maintenant dans ChatGPT la possibilité d'avoir une personnalisation des applications et il y a notamment une application script doctoring ou en tout cas aide à la création d'histoires.
Et je veux juste compléter parce que tu parlais tout à l'heure ou tu parlais du livre blanc que vous aviez fait sur les fameuses l'uniformisation des demandes qui nous sont faites pour les dossiers. Pour ça, ChatGPT est très fort hein, parce que quand on lui copie-colle un synopsis à nous, hein, je veux dire qui fait 4 pages et qu'on lui dit peux-tu me faire la version une page, la version 900 mots, la version 1438 caractères espace compris, c'est vrai qu'il y arrive pas trop mal. En tout cas, ça fait une bonne base de travail et ça, c'est un vrai gain de temps en tant que scénariste parce que ce temps passé à la réécriture, l'adaptation de nos propres textes pour que ça colle aux contraintes d'un appel à projet ou de quelque chose, ça peut être très long. Et moi, sur ça, par contre, je l'ai vraiment adopté. Et là, pour le coup, je suis moi-même avec mes documents. Enfin, voilà, donc...
La création d'accroche, la création de pitch, tout ça, ça peut être effectivement utilisé de manière assez, on va dire, aboutie, parce que justement, il y a dans l'esprit de concision, la manipulation des concepts, etc., il y a aussi un autre avantage, c'est que vous pouvez lui demander de recommencer 50 fois, il ne se fâchera jamais. Et accessoirement, il va beaucoup plus vite que vous aussi. Donc, y compris des fois pour trouver la bonne flexion, comment réussir à intégrer une idée dans un pitch déjà existant, etc. C'est assez surprenant et en tout cas, ça permet au moins à l'esprit humain d'avoir une base de travail, même si évidemment derrière on retravaille, mais ça accélère beaucoup, ça c'est clair.
Oui, et un autre petit tips qui va dans le sens de « il ne se fâchera jamais », ça c'est vrai que c'est assez agréable, c'est aussi demandez-lui tout de suite plusieurs pistes, demandez-lui tout de suite plusieurs versions. Moi, je lui dis, fais-moi 5 versions de ce synopsis en une page, comme ça, on gagne un temps fou. Et ça m'aurait pris 2 jours, quoi. Et comme il est inépuisable, corvéable à merci et c'est légal, et ben, en tout cas légal, dans cette mesure-là, encore une fois, en utilisant ses propres textes, enfin, en l'occurrence, là, c'est les miens, c'est quand même un gain de temps. Ça peut être utilisé comme un assistant personnel. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est un peu.
C'est très fort pour la créativité. Donc, nous, on a fait une formation aussi sur comment bien démarrer un projet, quel que soit le format de l'histoire. Puisqu'en fait, nous, on s'est aperçu dans notre agence de script doctoring qu'à peu près les 2/3, un peu plus des 2/3 des projets qui nous passaient entre les mains, c'était très souvent parce que l'auteur avait négligé les premières phases de réflexion et de travail sur ses projets. Donc tout se joue là, très souvent. Donc évidemment, on a intégré tout de suite ChatGPT dans les formations sur l'aide à la création, parce que c'est évidemment un des points forts, notamment de ChatGPT.
Oui, non, pardon, c'est juste, là, en vous écoutant, je réagis, moi aussi, j'ai essayé de faire une note d'intention avec ChatGPT pour voir ce que ça donnait, évidemment, c'était infâme, c'était extrêmement...
Tu l'as fait générer dès le début ou tu lui en as donné une que tu as faite pour la faire ressentir?
Non, j'ai donné une espèce de micro-pitch.
Ah, c'est différent, parce que quand tu pars de pas grand-chose et que tu lui demandes d'allonger, en général, c'est pas ouf. Quand tu parles d'un truc long et que tu demandes de synthétiser, c'est vraiment autre chose. Le travail de synthétisation, il est assez fort. Le travail d'allongement, il est moins fort.
En tout cas, là où je voulais rebondir, c'était que vous parliez du fait de l'utiliser comme un outil dans ses imperfections, justement, pour s'y opposer, pour voir la part humaine qui manque à ce que la machine produit. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, tout le nerf de la guerre est un peu là, mais après, on va passer à d'autres sujets. Mais j'ai l'impression qu'il y a l'inquiétude est focalisée sur l'équivalent pour la création visuelle numérique de ce qu'on appelle le Uncanny Valley, la suspension d'incrédulité du spectateur. Il y a un peu l'équivalent pour tout ce qui est généré par l'intelligence artificielle, à savoir, à un moment, on voit la machine, on la sent la machine, on la sent encore, et l'inquiétude, et peut-être aussi le fantasme de certains entrepreneurs qui voudraient créer l'intelligence artificielle parfaite, c'est de réussir à effacer complètement cette frontière. Voilà.
Oui, c'est vrai. Alors, on sent dans le style, il y a un style d'écriture pour l'instant de ChatGPT. Il a son propre style, mais ceci dit, on peut, avec des prompts aussi, faire varier les styles. On peut lui demander d'écrire à la façon d'eux. Et comme vous pouvez maintenant implémenter, donner des données à la machine, vous pouvez donner des textes écrits par vous et vous pouvez lui demander de réécrire un texte ou de proposer, par exemple, une note d'intention dans votre propre style de langage. Donc, il va analyser votre langage, voir quelles expressions, quels registres vous utilisez, comment sont structurées vos phrases, et il va tenter d'imiter votre style pour produire une note d'intention comme si elle était écrite par vous. Donc, tout ça est en train, encore une fois, de s'améliorer. On est à ChatGPT 4 et on a des versions qui vont arriver. Donc, ça s'améliore. Après, sur la question, par exemple, de la note d'intention, heureusement, c'est ce qui nous sauve en tant qu'être humain. C'est qu'une machine n'a pas de point de vue. Plus exactement, elle a le point de vue moral de ses créateurs. D'ailleurs, on a essayé, dans le cadre d'ateliers, de lancer la machine sur un projet qui abordait les questions de sexe, notamment, et de sexualité dans le couple. Évidemment, là, c'est blackout. On ne parle pas de ces sujets-là. Ce n'est pas moral pour l'intelligence artificielle « made in USA ». Et un certain nombre de choses. Par exemple, je me suis amusé à lui demander s'il pensait que Rachida Dati était un bon ministre de la Culture ou allait être un bon ministre de la Culture. Autant vous dire qu'elle ne s'est pas trop engagée. Elle s'est bornée juste à me dire qu'elle n'avait pas vraiment un parcours qui plaidait pour ses compétences culturelles, mais que ça n'était pas forcément un mauvais signe, que ça ne l'empêchait pas d'avoir ce portefeuille. Donc, évidemment, la question de la moralité, la question du point de vue, une intelligence artificielle, c'est une machine qui est basée notamment sur la prédictibilité. C'est-à-dire, ce sont des machines qui se sont entraînées avec des données, qui remâchent ces données et qui, à partir de prompts, génèrent des textes avec, d'une certaine façon, la logique presque de prédiction de ce qui devrait arriver après tel mot, quoi. Et donc, dans la mesure où il n'y a pas de point de vue, dans la mesure où effectivement c'est à l'auteur que revient le point de vue, pour écrire une note d'intention, il y a des prompts, il y a une certaine façon de s'y prendre pour la générer, ou en tout cas pour générer une base assez solide. Mais ce qui nous sauve, c'est qu'encore une fois, même si on a des histoires qui peuvent être calqués sur des modèles bien connus de dramaturgie. Après tout, on travaille tous avec une douzaine de types d'intrigues qui sont toujours les mêmes. La machine peut le faire aussi, mais pour autant, le point de vue, un point de vue singulier d'un auteur, y compris allant à contre-courant, possiblement, de ce qu'on pourrait inculquer à la machine, la machine n'est pas capable de le faire. C'est ce qui nous sauve en tant qu'auteur. C'est qu'encore une fois, il faut un auteur qui sache ce qu'il a envie de raconter tout en racontant une histoire. Et ça, la machine, bon, elle va nous donner vaguement une espèce de morale toute faite à quelque chose, mais pour autant, les choses véritablement abouties, ça, c'est pas de l'ordre de la machine encore.
Oui, ce que tu veux dire, c'est que c'est pas encore un créateur en lui-même, c'est plus un assistant, comme tu le disais. Mais là, pour l'instant, on est quand même plutôt très positif. Moi, j'ai annoncé une table ronde anxiogène, donc j'aimerais qu'on rentre dans le dans le dur. Parce que, effectivement, je vous écoute, je me dis, ah ouais, c'est vrai, effectivement, on voit que ça peut être positif, ça peut aider, etc. Mais il y a quand même un paradoxe derrière tout ça, c'est qu'on nourrit la bête en même temps. C'est-à-dire, en la nourrissant de notre créativité, on lui permet de s'améliorer. Donc, est-ce que finalement on peut voir, question très ouverte, l'arrivée de l'intelligence artificielle comme une avancée réelle ou comme une menace, ou les deux ? Je me tourne plus vers Stéphanie là pour le côté.
Oui, alors là pour le coup, c'est vrai qu'on la nourrit et en plus, ce qu'il en ressort n'est pas garanti d'être protégé au titre du droit de la propriété intellectuelle. Ça, c'est quand même important de bien le rappeler.
Le protéger si tu es sur certaines versions de ChatGPT.
Alors, ouais, mais le tu peux le protéger parce que ChatGPT, dans ses conditions générales, a dit que c'était possiblement protégé. Ça n'a aucune valeur juridique en France, puisque en France, pour être protégé, une œuvre, elle doit être le prolongement de la personne de l'auteur. C'est le résultat de choix qui ont été délibérés. Et le problème avec ChatGPT, c'est qu'on choisit un prompt. Mais de ce prompt, on ne peut pas considérer que ce qui va en découler, c'est réellement en lien direct avec notre esprit à nous. C'est-à-dire qu'il y a une partie de hasard qui est tellement grande qu'en réalité, ce qu'il en résulte ne peut pas être protégé au titre du droit de la propriété intellectuelle. Alors, il y a évidemment beaucoup de nuances à apporter à ce que je viens de dire, mais concrètement, les premières décisions qui tombent en ce moment... globalement, elles sont plutôt pour le refus de protéger au titre du droit de la propriété intellectuelle ce qui est généré par l'IA. La question maintenant, c'est quand une œuvre est assistée par l'IA. Là, vous voyez, on rentre tout de suite dans quelque chose d'un peu plus
pour eux.
Ce que, pour éclaircir, juste pour avoir la base, on ne peut pas donc comparer ces outils d'intelligence artificielle à des outils, par exemple, comme un logiciel de montage ou Photoshop, qui sont des outils à proprement parler, là où on peut reconnaître le travail d'un auteur, comme tu dis, qui découle d'une personne ou de plusieurs personnes, alors qu'il y a une ambiguïté juridique sur laquelle on va pouvoir revenir tout à l'heure, par rapport à ces outils-là qui ne sont pas encore complètement régulés, justement.
La part
et par rapport à leur nature aussi, oui, d'être issus d'une de sociétés privées.
On va prendre un exemple pour répondre à ta question, ce sont les photographes. Les photographes aujourd'hui galèrent réellement pour faire protéger leurs œuvres de l'esprit au nom, enfin au titre du droit de la propriété intellectuelle, parce que souvent ce qu'on leur dit, c'est que finalement ils ont juste fait un clic et que tout ce qu'ils sont en train de faire, bah, c'est peut-être des photos, mais c'est juste le résultat d'un savoir-faire purement technique. Ce qui fait qu'il n'y a pas de place pour le droit de la propriété intellectuelle, puisqu'il n'y a pas de savoir-faire, je dirais, de choix délibéré. Il n'y a rien qui permet de marquer un lien de filiation entre la photographie et l'auteur. Vraiment, il y a un vrai souci chez les photographes en ce moment à cause de ces problématiques techniques. Si je fais un pas de côté et que je regarde dans l'intelligence artificielle, au fond, quand on demande à un traducteur de prendre la version DeepL et de la corriger, ou quand on demande par exemple à un scénariste de prendre la version ChatGPT et d'essayer d'en faire quelque chose d'à peu près acceptable, eh bien la question va être de savoir maintenant si cet apport de l'humain sera suffisamment convaincant pour un juge pour dire, alors dans ce cas, oui, l'ensemble peut être protégé au titre du droit de la propriété intellectuelle. Mais moi honnêtement, en tant que juriste, je trouve qu'on est plutôt dans un mouvement qui tend à de moins en moins reconnaître la propriété intellectuelle aux créations. Il y a une époque, c'était open bar, tout était protégé au titre du droit d'auteur. Enfin, on ne se posait même pas de questions, il y avait comme une forme de présomption un petit peu acceptée par toutes et tous. Et aujourd'hui, on est dans un mouvement inverse, où on considère que ce sont des champs qui doivent être extrêmement protégés et réservés à la création, pour le coup, humaine. Donc attention, utiliser l'IA, c'est aussi prendre le risque que ce qu'il en découle ne soit pas protégé au titre du droit d'auteur. Et le droit d'auteur, c'est l'édifice de vos métiers de la création, c'est ce qui vous protège pour toute votre vie, pour 70 ans post-mortem. On va pas parler non plus de choses qui... Mais il y a ça aussi qui est en jeu. Voilà. Et puis d'autres conséquences qu'on pourra venir...
Oui, alors il y a d'autres problèmes aussi, plus généralement, pour rebondir. C'est que, alors, tu parlais tout à l'heure des photographes. Je vous rappelle que vous avez un macaque qui a appuyé sur le... qui avait volé l'appareil photo comme ça d'un photographe et il est devenu le propriétaire de la photo. Donc vous pouvez aller voir les photos elles sont sur Wikipédia, puisqu'un macaque, bien sûr, ne peut pas revendiquer, n'est pas humain, donc toutes les photos sont en libre accès sur Wikipédia. Vous avez un macaque qui a fait un selfie avec l'appareil photo du photographe et le photographe a attaqué, mais c'est pas lui qui avait appuyé sur le déclencheur, c'était le singe. On a un peu effectivement avec ce même problème effectivement avec l'IA. L'une des problématiques qu'on a en général dès aujourd'hui, c'est que tout le monde veut bouffer dans la gamelle des scénaristes. Les comédiens sur les plateaux écrivent les dialogues et prennent des droits au passage. Les producteurs veulent devenir co-auteurs des projets qu'ils signent, etc. etc. Donc, évidemment, à partir du moment où on a une IA, et tu l'as vécu directement, qui est utilisée possiblement par un coproducteur qui amène quelque chose d'assez substantiel, qu'ils disent ou pas qu'il est utilisé d'ailleurs, l'intelligence artificielle à la base, ça pose problème parce qu'évidemment, il va de fait vouloir être beaucoup plus co-auteur et donc manger dans la gamelle des scénaristes. Donc ça pose aussi un problème directement concret. Il y a plein d'autres problématiques évidemment qui concernent les auteurs. D'une part, le fait qu'effectivement, ils aient le droit en opt-out de refuser que leurs œuvres servent aux données d'entraînement des IA. Donc ça, c'est un premier combat à mener, c'est-à-dire que vous puissiez décider, grâce peut-être simplement en le déclarant à votre société d'auteur, que vous acceptez ou non que tout ce que vous créez puisse servir aux IA. La deuxième chose, c'est que vous soyez rémunéré pour l'usage éventuellement de vos œuvres si elles servent notamment à l'IA. Alors, sous quel format, c'est la grande question. Et puis, il y a la question de la transparence. C'est cette idée que quand on génère un texte, on doit savoir dans le résultat, on doit avoir les sources listées, de savoir quelles ont été les œuvres ou le corpus qui a servi à produire ce texte-là, justement pour pouvoir y voir clair après sur qui appartient à quoi, en tout cas quel est le propriétaire et quelle est la marge, on va dire, de création par rapport aux données de départ. Donc ça, c'est au sein du SNAC, ce qu'on propose, c'est les règles de l'art, d'accord, Donc encore une fois, A pour autoriser, R pour rémunérer et T pour la transparence. Voilà. Et c'est d'essayer de se battre pour ça, pour que... Voilà. Alors après, comment ? Ça prendra peut-être la forme d'une taxe, ça prendra la forme de... On ne sait pas trop quoi encore, mais l'idée, c'est bien de protéger les auteurs dans notamment l'utilisation qui est faite de leurs œuvres.
Je rebondis là-dessus parce qu'en vous écoutant, je fais un pas de côté par rapport à ce que j'allais vous demander, mais se pose la question de la détection, en fait, de l'utilisation de l'IA. C'est-à-dire que moi, j'ai lu quelque chose récemment de hyper paradoxal, c'est que maintenant, on entraîne des IA à détecter les IA qui sont intervenues ailleurs. Donc on se dit, bon...
Mais aussi pour l'éducation. Quand Wikipédia est arrivé, il y a eu tout ce grand branle-bas de combat sur ça veut dire que les enfants ne vont plus lire, ils vont faire des copier-coller de Wikipédia. Et maintenant, on a des IA, donc effectivement, il y a des IA qui sont en train d'être créées pour contrôler si les copies sont générées par l'IA. Donc oui, il y a ça. Après, en fait, quand je vous écoute, je me dis, c'est toute l'ambiguïté de l'IA, c'est l'IA, elle est là. Enfin, on peut décider qu'on fait abstraction, mais ça me semble, l'autruche me semble pas la bonne strate, où on peut décider que comment on essaye justement de ramener l'IA à ce qu'elle est et ce qu'elle doit rester, c'est un outil. Et non pas notre grand maître à tous. Et c'est intéressant parce que tu donnais un exemple là. J'étais samedi jury dans la première édition du 48 heures AI Project. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui savent ce que c'est que le 48 heures. Ça fait très longtemps que ça existe. Faire un film en 48 heures, c'est un truc qui existe. Voilà. Et en cet été, ils ont eu le cas à Mexico, parce que donc, ça existe partout dans le monde, du prix du meilleur scénario qui a été attribué à un film. Et quand le réalisateur scénariste est venu sur scène récupérer son prix, il a dit « je suis super content, d'autant plus que c'est ChatGPT qui a écrit le scénario ». Donc prix du meilleur scénario dans ce cadre-là, c'était très compliqué. Donc il y a eu, comme d'ailleurs au Nikon l'année dernière pour la meilleure réalisation avec un adaptateur, grand scandale, qu'est-ce qu'on fait ? On retire le prix, on ne retire pas le prix. Et finalement, moi, j'ai bien aimé la démarche qui a été celle du 48 heures, c'est de dire, bon, il faut un terrain d'expression pour ceux qui veulent s'essayer à cette IA, parce qu'elle est là, voilà, il y a des gens qui vont vouloir l'utiliser, que ce soit à l'image ou que ce soit en texte. Mais effectivement, elle ne peut pas venir concurrencer la création de l'homme et surtout créer la confusion avec cette démarcation. Donc, ils ont créé le 48 heures AI Project, où là, à la fin, il y a la liste de tous les IA qui ont été utilisés, et le plus il y en a, le mieux. Donc, à la limite, c'est réglé. Et je pense qu'au-delà de légaliser, enfin de tout le process juridique, qui est souvent un processus long, difficile, parce qu'effectivement, comment on détecte, comment est-ce que c'est basé sur la bonne foi, est-ce que c'est les gens qui doivent déclarer, est-ce que, en attendant, en tout cas, se dire que on donne un terrain d'expression pour ceux qui veulent l'utiliser, pour que ce soit bien déterminé, enfin bien distinct. Voilà, je pense que c'est des pistes à explorer aussi.
Oui, je pense que de toute manière, on n'a pas le choix. On est tous juchés sur les épaules de Darwin. Et quand les conditions changent drastiquement et quand le métier change drastiquement, il faut s'adapter. Se pose la question, effectivement, encore une fois, de faire la part des choses, tu l'as très bien dit, entre la création humaine, la création d'œuvres de l'esprit et la création de la part de la machine ou de l'assistance de la machine. C'est bien justement pour ça qu'il va falloir sans doute aussi qu'il n'y ait pas de prime aux entreprises qui créent par l'intelligence artificielle. Je vous donne un exemple. Vous avez des plateformes qui génèrent du contenu éditorial journalistique. Les pure players et les organismes de presse sont aidés par l'État. Mais qu'en est-il d'un système automatisé qui récupère des dépêches, les découpe, reformate et automatiquement génère des articles ? Est-ce qu'il est normal qu'on accorde des aides d'État à ce genre de plateforme ? À mon avis, la réponse est non. Vous avez des contenus aujourd'hui, des livres entiers développés par l'IA sur Amazon. Est-il normal que la TVA réduite s'impose aussi à ces livres-là versus les œuvres créées par l'intelligence humaine ? À mon avis, non. Une œuvre qui est créée par l'intelligence artificielle, ça doit être transparent, on doit le savoir, et ça ne doit pas bénéficier de la même façon aux auteurs, et les gens qui écrivent avec l'intelligence artificielle ne doivent pas bénéficier des mêmes aides. On pourrait en citer d'autres, voilà, mais je pense que ça donne l'idée que l'avantage doit toujours être à la création de l'œuvre de l'esprit versus ce qui est produit par l'intelligence artificielle de manière totalement automatique. On a encore une chance, c'est que dans le domaine du scénario et de la création d'histoire, on a encore de beaux jours pour les auteurs. Mais ça n'empêche que l'usage, effectivement, par les auteurs de l'intelligence artificielle, doit amener à une prise de conscience et de la régulation, de la réglementation et bien sûr de la transparence.
Il y a une différence à faire entre les créations intellectuelles d'humains et les produits synthétiques. Je pense qu'il faut vraiment qu'on bâtisse un droit qui sera différent entre ces deux choses qui sont très différentes. C'est-à-dire que si on y réfléchit, le droit de la propriété intellectuelle, il a été créé pour quoi et pour qui ? C'est un monopole d'exploitation, mais c'est une exception à ce qu'on appelle la loi du marché. En toute logique, on a un droit absolu, c'est de se copier les uns et les autres. Celui qui a inventé le concept de la livraison de pizza à domicile, il a été vite doublé par des gens qui avaient plus de moyens de le faire à des tarifs inférieurs. Et c'est les lois du marché, enfin, sauf si on change de milieu et qu'on se sépare de ces lois du capitalisme. Mais disons que, en tout cas, pour l'instant, c'est ça. Le droit d'auteur est vu comme une exception à ces lois du marché, comme un monopole d'exploitation qu'on donne à une personne qui lui permet de l'exploiter pendant toute sa vie et 70 ans post-mortem. Les produits qui sont issus de l'IA et qui sont synthétiques n'ont pas lieu d'être protégés de la même façon. Et donc, ils doivent revenir sur le régime, enfin, au régime classique de la loi du marché. Donc, évidemment, je te rejoins. Nous, on a écrit un article avec Frédéric Maupomé, qui est scénariste de bande dessinée, il y a plusieurs mois, sur justement toutes les conséquences sociales et fiscales qui pouvaient découler et qui devaient concerner ces produits synthétiques. Tu as visé la TVA, et c'est extrêmement juste, à mon sens. Une TVA à 5,5 pour un livre généré par IA, n'a pas de sens. Mais si on veut aller plus loin, la prise en charge d'une partie des retraites complémentaires pour la SOFIA, pour les auteurs du livre, elle n'a pas lieu de concerner des auteurs de produits synthétiques, enfin des créateurs de produits synthétiques. Et puis ça va jusqu'au régime social, ça va jusqu'à tous ces dispositifs qui ont été mis en place pour des aides, enfin pour des œuvres d'exception culturelle. Enfin, c'est quand même, il y a bien un sens, quoi. Et à mon sens, les produits synthétiques ne peuvent pas être concernés par les mêmes dispositifs spéciaux.
Mais du coup, dans vos réflexions, ce qui m'intéresse, il y a les produits synthétiques, les produits générés par les humains, et puis les produits hybrides, comme on en parlait tout à l'heure.
Complexes.
Et alors, là, voilà, c'est quoi ton
Le droit est déjà habitué à traiter avec la complexité des objets. On a plein d'objets qui sont hybrides, et on a des alors il y a deux solutions. C'est soit on part du principe qu'on a une application distributive. On pourrait imaginer une présomption de 50-50. C'est généré à moitié par un humain, généré à moitié par une IA. Et bien dans ce cas, on fait une application hybride. Ça existe déjà en droit fiscal. On est très habitué à faire ça. Soit on part à ce moment-là, donc c'est plus une application distributive, mais c'est une application exclusive. Et on se dit, vous avez voulu utiliser l'IA, c'est un choix. Mais dans ce cas, ce sera le régime des produits synthétiques qui s'appliquera à ce contenu hybride. Vous voyez, c'est deux pistes qu'on pourrait envisager, quoi. Dans l'intérêt de qui ? Dans l'intérêt de quoi ? Il faut savoir que tous les dispositifs d'exception culturelle, ils sont fragiles. Et si demain, on les fait éclater parce qu'on met toute cette overproduction de contenu synthétique à bénéficier de ces dispositifs fragiles, on va dans le mur. Donc moi, à mon sens, je suis assez... Alors, je ne suis pas technophobe, mais je suis plutôt très inquiète pour le coup, parce que je trouve que ce sont des régimes qui doivent être vraiment protégés.
C'est vraiment... Dans tout ce qui est production automatique, c'est-à-dire on sait qu'il y a un algorithme qui récupère par exemple des dépêches et qui les reformule, dans la génération de contenu véritablement synthétique sur des bouquins où il y a très peu d'intervention humaine, là évidemment c'est assez identifiable et en tout cas on peut peut-être arriver à faire des choses. C'est sûr que sur tout à partir du moment où c'est l'auteur lui-même qui utilise comme assistant l'intelligence artificielle, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Alors maintenant je vais me faire l'avocat du diable en disant que évidemment d'une part nos petits problèmes de droit d'auteur pèsent-ils bien lourd face aux grands enjeux de l'IA, dont on rappelle qu'elle génère certes des textes, mais qu'elle génère aussi des molécules qui peut-être guériront nos cancers ou prolongeront notre espérance de vie de 20 à 30 ans, génère des nouveaux matériaux, génère des nouveaux algorithmes qui permettent notamment pour les militaires la surveillance, etc., et des systèmes embarqués. Ça génère des nouveaux algorithmes qui permettent aussi de faire du trading à haute fréquence et de gagner beaucoup plus d'argent. Donc, on voit bien que la masse d'argent et les intérêts militaro-économico, tout ce que vous voulez, géostratégiques autour de l'IA sont quand même éminemment plus élevés que simplement nos petits problèmes d'auteur. C'est là où il faut être très fort pour pouvoir résister et imposer les choses. L'autre partie, on va dire, d'être l'avocat du diable, c'est de dire qu'on est bien d'accord que toutes ces problématiques de droit d'auteur s'appliquent dans des pays qui ont signé les traités de l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Mais si vous allez sur le site de l'OMPI et que vous regardez quels sont les pays qui ont coché les cases des différents traités, tous les pays n'ont pas signé les traités. Donc ça veut dire que vous avez des gens qui sont là à titre d'observateurs, comme on dit.
Oui, mais alors Antoine, je vais me faire le contre-avocat du diable. Déjà, il y a deux choses, c'est qu'on parle de l'intelligence artificielle effectivement plutôt appliquée au domaine de la création culturelle, audiovisuelle, graphique et littéraire. Mais j'entends ce que tu dis, parce qu'effectivement, c'est un sujet global qui touche à tous les secteurs industriels, économiques et j'en passe. Par ailleurs, il y a aussi, certes, le droit d'auteur à la française, qui lui-même, d'ailleurs, est un sujet en soi, mais on a bien vu avec la grève des scénaristes Hollywood qu'il y a aussi des considérations d'auteurs, d'autrices qui sont conscientes partout. Et là, on est arrivé un peu au-delà du juridique à une question, à mon avis, philosophique. C'est aussi, qu'est-ce que veut le public ? Parce que le public, même lui, qui peut être formaté à force d'être marketé, etc., à outrance, va aussi avoir besoin d'une création, d'un produit qui n'est pas un produit ordinaire, d'où l'exception, parce que c'est aussi un produit qui vient de l'humain. C'est un produit qui a justement une nature particulière. Et ça, le public finit par leur demander. On le voit, on pourrait l'interpréter comme ça, j'extrapole un peu, mais on le voit avec les derniers films Marvel qui font des bides, relativement des bides. Les films Marvel sont des formatage extrêmement identifiable que ChatGPT et les autres logiciels pourraient très facilement écrire. On voit bien que maintenant le public se lasse un peu et qu'on a eu des succès un peu originaux comme Oppenheimer qui ont montré aussi qu'il y avait toujours un renouvellement de l'appétence du public, qui est peut-être la frontière justement de la chose.
Mais en fait, ce que tu dis, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure en me disant ChatGPT, en tout cas si on parle de lui, ça provoque par nature une uniformisation des contenus, puisque étant entraîné sur des bases, on arrive toujours au même scénario. Donc quand je disais, sers-toi-en et va à l'opposé de ce qu'il te propose, si tu as besoin d'un ping-pong, c'était un peu ça. C'est qu'effectivement, à un moment, aujourd'hui en tout cas, cette machine, elle n'est pas capable de proposer un point de vue humain et une patte. Et je l'ai testé pour une chronique humour. Je vous le dis, j'avais besoin d'écrire une chronique pour la radio en 2 heures. Je n'avais pas le temps. Il fallait que je fasse l'événement le matin, que j'écrive l'après-midi et que je la passe à 14 heures. Je me suis dit, allez, je le tente. La veille, je lui ai dit, voilà, tu es chroniqueur radio, tu as beaucoup d'humour. Voici 2 chroniques à toi que tu as écrites. C'était les miennes, en me disant, est-ce qu'il va réussir à copier ma patte ou pas. Ce qui m'a sorti, c'était tellement à chier que du coup, je l'ai utilisé, j'ai fait ma vanne pourrie, et après j'ai dit, je vous rassure, c'est pas de moi, c'est ChatGPT, et ça a marché. Voilà. Donc c'est, non, en fait, c'est là où je dis, en l'état, et c'est vraiment ce qui nous sauve aujourd'hui en tant qu'auteur, c'est qu'il n'est pas capable de produire des contenus de qualité, d'avoir de l'humour, d'avoir du second degré, d'avoir, tu vois, tout ce qui nous rend humains, en fait. Donc ça,
la
c'est
provocation.
Cool. La provoque. Non, ça, il a 0 second degré, ChatGPT, c'est un Américain pure souche. C'est terrible. Mais voilà, donc pour l'instant, sur ça, on a encore de la chance et on peut vraiment encore s'en servir que comme d'un outil. Mais effectivement, on a raison d'anticiper, on a raison de voir venir le truc et on a tellement à protéger et tellement à perdre que voilà, faut faire attention. Mais aujourd'hui, j'ai la sensation qu'on a encore la main.
Nous, en tout cas, je sais que moi, ça fait plusieurs tables rondes que je fais, notamment dans le secteur du livre. Et il y a une question qui revient souvent de la part des lecteurs qui sont dans la salle, c'est comment est-ce qu'on peut agir ? Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une préoccupation de la part des lecteurs, comme probablement des spectateurs. Et c'est vrai que, sans doute, la labellisation, de dire honnêtement, voilà, ça, c'est fait moitié par un humain, moitié par une IA, ça devra être, à mon sens, extrêmement important. C'est-à-dire qu'au même titre que tu évoquais la transparence des bases de données qui viennent nourrir l'IA, je pense qu'il va falloir une autre transparence et qui relève de l'éthique, c'est de dire comment est-ce que ça a été fait. Donc le lecteur est très en demande, et à mon sens, la labellisation, c'est quelque chose qui pourrait être une voie intéressante. Et s'il est évident, c'est que cette normalisation, cette uniformisation, parfois ces stéréotypes aussi. Hein. Moi, je lui ai fait écrire des trucs. Enfin, les petites filles sont jolies et fragiles, les petits garçons sont courageux et tout, et tuent les sorcières. Enfin bref, c'est très téléphoné, c'est lisse, c'est pas terrible.
Mais moi, des moyens de contourner.
Il y a moyen de contourner peut-être, mais en attendant, ce qui, moi, me fait peur, c'est plutôt ce qu'il va y avoir comme conséquence sur l'apprentissage. Parce qu'un illustrateur, pour réussir à faire des illustrations, il passe des heures et des heures à apprendre le trait parfait, à se farcir une bibliothèque complète pour éventuellement apprendre le geste. Et moi, en tant qu'universitaire, j'ai vu les premières copies générées entièrement par un chat GPT et je me retrouve forcément avec des copies qui sont plus ou moins les mêmes. Alors, ça vaut un 10, ça vaut un 11, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je perds du temps et je note chat GPT ? Et ça me fait penser, vous savez, aux dossiers de candidature qui maintenant sont globalement faits par les étudiants via ChatGPT. Et comme on en reçoit 1200, on demande à l'IA d'aller les sélectionner, de nous filer un coup de pouce en étant assistant. Pour... Donc vous avez une IA qui génère les dossiers de candidature ou les appels d'offres, une IA qui fait le tri dans ces... Bon, je pense qu'il va falloir qu'on fasse un pas de côté si on veut garantir à tous ces contenus une qualité minimum, quoi.
Mais c'est sûr que la lettre de motivation, ça va disparaître, hein. Ça n'a plus aucun sens.
Oui, alors, les organisations d'auteurs, évidemment, veillent au grain et travaillent beaucoup. Par exemple, actuellement, l'un des débats au niveau de l'Europe, c'est qu'il y a une exception pour le traitement des données, d'accord, c'est-à-dire qu'ils ne génèrent pas de droits, etc., puisqu'on est sur la question des data, l'usage des data. Et évidemment, les organisations qui fabriquent des IA voudraient faire passer le travail de l'IA pour des data, pour échapper aux droits d'auteur. Donc bref, il y a un certain nombre de sujets un peu brûlants sur lesquels les différentes organisations d'auteurs essayent de ferrailler pour essayer de maintenir un peu le cap, justement, de la propriété intellectuelle. Voilà. Après, voilà, si on veut aussi prendre en compte... avant l'intelligence artificielle, avant ChatGPT, moi j'ai écrit des tas d'histoires. J'ai pas donné mes sources, hein. Mais pour autant, elles ont été nourries par tout ce que j'ai vu comme livre, comme film. Mon inspiration, elle sort pas de nulle part. Et on m'a pas demandé non plus de sortir les sources de mon projet à la fin. Donc on demande à l'IA et on attend à l'IA des choses qu'on ne demande pas aux auteurs en général, parce qu'on considère que la propriété intellectuelle et l'œuvre de l'esprit seraient quelque chose comme ça, ex abrupto, qui serait généré. Alors évidemment, là, on est face à des enjeux économiques, on est face à la défense véritablement du travail intellectuel, mais c'est pour dire qu'il y a aussi les arguments contre qui existent et qu'il faut savoir aussi déjouer, parce que bah, y a des enjeux pour nous, créateurs, qui sont véritablement importants.
La différence, c'est que tu t'es nourri en lisant et des livres que tu as sans doute achetés, que tu as achetés normalement, des films que j'imagine tu as regardés dans des conditions respectueuses du droit de la propriété intellectuelle, on le veut. Là, on est en train de parler d'IA qui génère des contenus sur la base d'un pillage.
Oui, mais j'entends.
Inédit, qui n'a jamais eu de comparaison dans l'histoire de l'humanité. Je pense que vraiment, entre sources licites, allez... pour 90% de ce que tu as lu versus l'IA générative de contenu, on est vraiment
bien
sur
sûr.
Autre chose.
Après, je te pose la question, encore une fois, de se dire, OK, on a une intelligence artificielle qui se nourrit d'un corpus pour pouvoir générer correctement. À partir du moment où on est, par exemple, en Europe avec un système réglementaire et des gens qui doivent choisir avec quoi ils doivent nourrir leurs intelligences artificielles, donc faire des choix aussi économiques dans la mesure où il y a possiblement des taxes ou des réglementations, qu'en est-il des IA qui naîtront dans des paradis fiscaux et des endroits où on se moque joyeusement des droits d'auteur? Ça veut donc dire qu'on va créer...
Il n'y a pas besoin d'IA pour les paradis fiscaux, hein. Ça marche
non,
très
c'est
bien
juste
sans,
pour dire qu'il pourra y avoir peut-être des IA qui seront peut-être mieux entraînées à des endroits que d'autres. Et ça risque peut-être de donner un désavantage concurrentiel à certains pays. Donc, c'est une question aussi qui plane, je dirais, en contre toutes ces questions de réglementation et auxquelles il faut trouver des contre-arguments et des réflexions pour défendre, encore une fois, les auteurs.
Justement, je vais revenir sur deux actualités très récentes. La création du GPT Store, où maintenant on va pouvoir soi-même créer sa propre intelligence artificielle et l'entraîner pour ses propres besoins et ensuite la mettre à disposition, voire même la monnayer. Ça qui est quand même ironique dans l'affaire, c'est qu'on pille les auteurs qui n'ont pas de rémunération sur leur travail, mais on va par contre monnayer une intelligence artificielle qui va permettre de faire ça. Et aussi sur le procès qui est intenté à Midjourney, en fait, parce qu'il y a 16 000 artistes là qui viennent de poser plainte contre Midjourney pour le pillage de leurs œuvres au titre de la propriété intellectuelle. Du coup, Stéphanie, je me tourne vers toi. Par rapport à cette question de droit d'auteur, comment est-ce qu'on peut agir, mais est-ce que ces jurisprudences éventuelles vont peser dans la balance? Et qu'est-ce qu'elles peuvent générer, justement, sans mauvais jeu de mots, avec l'intelligence artificielle pour l'avenir.
Là, pour le coup, ça vaudrait presque le coup de revoir le titre, parce que ce serait entre flou artistique et flou juridique. Parce qu'il y a vraiment un flou juridique.
On a mis à venir parce qu'on est optimiste.
Oui, mais moi aussi, je suis optimiste, donc j'aime bien le mot avenir, mais je voudrais dire d'avance que je ne vais pas vous faire une démonstration très claire, parce qu'il y a beaucoup de flou autour du droit. Concrètement, on va dire que la majorité des bases de données qui permettent aujourd'hui à Midjourney ou Stable Diffusion de faire des générations de produits synthétiques, elles ont vraiment été nourries à fond à partir de 2010, 2011, 2012 et beaucoup en 2013-2014. Donc bien avant qu'on mette en place un cadre au niveau de l'Union européenne. C'est important de le dire parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y avait aucun droit qui existait. On ne savait pas vraiment de quoi on parle, etc., etc. Alors, vous savez, je ne vais pas vous faire un cours de droit d'auteur, rassurez-vous, restez. Mais en gros, le droit d'auteur, c'est quoi? C'est simplement de vous dire, vous n'avez pas le droit de reproduire et de représenter mes œuvres sans mon autorisation. Alors, la première question qui se pose, c'est est-ce que quand une IA vient aspirer un contenu pour entraîner, pour s'entraîner et générer des contenus, est-ce que déjà elle est dans un acte de reproduction et de représentation des œuvres? Ça, cette question, elle divise déjà la doctrine universitaire, on n'est pas tous d'accord. Par exemple, les Japonais, ils sont convaincus qu'il n'y a même pas de reproduction d'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a éventuellement une mémorisation, mais tellement courte, voilà, que pour eux, ça n'implique pas le droit de la propriété intellectuelle. Donc pour eux, c'est limite circuler, il n'y a rien à voir, ça n'implique, on n'a même pas à vous demander l'autorisation. Vous n'êtes pas concerné avec votre droit d'auteur. Ça, c'est assez fort quand même. Alors, en France, on est globalement quand même assez convaincu qu'il y a au minimum une mémorisation des contenus qui implique une reproduction des contenus. Alors ça nous amène après à une exception. Vous savez, il y a des exceptions au droit d'auteur. Vous avez le droit de copier de façon privée un contenu. Il y a l'exception pédagogique. Moi, en cours, je peux passer des films parce que j'apprends à mes étudiants. Et puis, il y a l'exception, par exemple, data mining, qui a été mise en place en 2019 dans le cadre d'une directive européenne. Et l'exception data mining permet aux développeurs de venir fouiller des données, faire des analyses sur des textes et des données. Alors la question maintenant, c'est est-ce que quand on absorbe tous ces contenus, on est vraiment dans le cadre de cette exception? Parce qu'une exception au droit d'auteur, elle doit quand même permettre à ceux qui sont titulaires des droits de continuer d'en vivre. Et elle ne peut pas venir créer un préjudice qui serait si colossal qu'il viendrait anéantir quasiment tous les métiers de la création. Moi, quand je vois des IA génératives de contenu qui sont capables de générer des illustrations pour 20€ par mois, alors qu'il faudrait plusieurs semaines de travail pour un auteur pour faire globalement le même contenu, je pense qu'il y a une concurrence qui est tellement colossale, abyssale, que, à mon sens, on est vraiment dans un cadre juridique qui doit être réinterrogé. C'est-à-dire que l'exception, oui, mais là, à mon sens, tu parlais du traité de l'OMPI, il y a la convention de Berne qui dit qu'il faut que ça passe ce qu'on appelle un triple test. Je ne rentre pas dans le détail, mais en gros, une exception, elle doit quand même réserver, protéger encore la propriété intellectuelle. Là, elle est tellement, l'exception de data mining, contournée par les développeurs de l'IA, qu'à mon sens, elle vient anéantir finalement l'esprit même du de la protection au titre du droit de la propriété intellectuelle. Donc le cadre, pour l'instant, il faut qu'on demande au juge ce qu'il en pense, et il n'a pas encore donné de réponse. Ça ne va pas tarder, mais il faut être patient. Parce que là, les premières actions, elles vont donner lieu à des jurisprudences, sans doute 2024-2025. Et pendant ce temps-là, on a tous les développeurs d'IA qui continuent d'aspirer massivement tous les contenus qui sont sur l'IA. Donc il y a le fameux opt-out qui ne marche pas, mais qui est là, a priori, pour dire aux auteurs, si vous refusez catégoriquement qu'on vienne aspirer vos contenus, il faut le dire, il faut opt-out. Donc il faut manifester une volonté Alors ça se fait par exemple sur vos blogs perso, vous pouvez mettre dans les conditions générales que vous refusez catégoriquement que l'ensemble des contenus qui sont diffusés soient aspirés par un modèle d'IA. Est-ce qu'après c'est respecté? Ça c'est une autre question. C'est impossible à savoir, et quand les bases de données font le jeu de la transparence, nous on s'est amusé avec Frédéric Maupomé, on a regardé ses illustrations de bande dessinée dans la base de données Lion. Et on a retrouvé 40 fois son illustration. C'est les lecteurs qui mettent ça sur leur blog en disant « on a trouvé génial cette bande dessinée ». C'est un libraire qui a un coup de cœur pour la BD de Beaupomé et donc qui en fait une photo et qui la met sur son blog. C'est tout ça, en fait. Donc ça veut dire que vous faites l'effort de faire une veille, vous enlevez, vous faites opt-out partout, sauf que si vous avez un spectateur, un lecteur, un libraire qui ne fait pas ce travail, ça anéantit tous vos efforts. L'opt-out, ça ne marche pas, point.
Surtout qu'on a besoin, en tant qu'artiste, de cette publicité-là.
Exactement.
Pour pouvoir continuer à vivre, que les gens nous relaient sur les réseaux sociaux, qu'il y ait les blogs, etc. Parce que c'est là que nous, on a une chance de grailler, quoi.
La visibilité pour un artiste, c'est ce qui représente son gagne-pain. Je veux dire, si on ne parle pas de son travail sur le net, à quel moment il va pouvoir avoir une rencontre avec un public ? Donc on est face vraiment à un cercle assez vicieux. Et je vous avoue que là, l'opt-out, je ne sais pas trop comment on va s'en sortir, mais il faudrait d'abord qu'il soit efficace, et il ne l'est pas.
Parce qu'en soi, je rebondis sur ce que tu dis sur l'opt-out, actuellement, il ne servirait que si tu veux intenter une procédure juridique pour pillage, en fait, c'est ça ? Il n'a rien d'autre comme intérêt ?
Alors, ce qu'on pourrait faire, bon là, en tout cas, c'est des actions qui sont en cours, hein, c'est de dire que, d'abord, il y a bien une reproduction qui a été faite. D'ailleurs, c'est assez facile à démontrer, hein, il y a juste à taper, enfin, nous, on s'est amusé à le faire. Dans Midjourney, tu tapes Thanos, War Infinity, tu retrouves des images de qui sont protégées au titre du droit d'auteur. Et c'est des copier-coller. Tu ne fais même pas la différence entre les images d'origine et les images qui sont issues de l'intelligence artificielle. Donc, il y a vraiment une reproduction. Donc, il y a cette question-là qui va devoir être tranchée. Après, la question, c'est pour quel préjudice ? C'est quoi le préjudice économique, en fait ?
Et attends, parce que tu disais ça, mais il me semblait que... mais là, je n'ai pas l'info, c'est pour ça que je te la demande. Il n'y avait pas une décision de vouloir interdire de pouvoir mettre dans le prompt une référence à un artiste existant ?
Alors, je pense que du côté des développeurs, ils ont intérêt, effectivement, à changer de façon à pouvoir minimiser les risques, que leur responsabilité juridique soit engagée au motif qu'ils sont eux-mêmes hébergeurs de contenus qui seraient de nature à porter atteinte à la propriété intellectuelle. Mais pour moi, c'est une blague quand même, parce que concrètement, tant que tu génères du contenu qui vient directement en concurrence déloyale avec les auteurs, tu vois, tu...
Dans la mesure où tu peux aussi donner une donnée, enfin, tu peux transmettre des données pour imprégnation et écrire ou générer une image dans le style de. Il suffit simplement que toi, tu glisses une planche de la BD que tu aimes bien et pour demander un...
Si tu veux contourner, on peut toujours contourner les IA, ça c'est sûr.
C'est
mais déjà,
très compliqué.
Ça, c'est, voilà. C'est une amorce, un début, une truc de dire qu'on ne peut plus mettre le nom d'un artiste déjà existant dans un prompt. Déjà, c'est quand même... Ça oblige la machine à mixer. C'est-à-dire qu'au lieu de te sortir une copie conforme de l'artiste, ce sera nécessairement mixé avec d'autres. Ce n'est pas forcément mieux, mais je veux dire, tu vois, on n'aura pas le style Thanos, le style...
En tout cas, il y a les enjeux de la propriété intellectuelle. À mon avis, moi, ce ne sont pas les seuls, il y en a d'autres. Ce qui, moi, me fait peur réellement, c'est plutôt la conséquence sur les seuils de prix psychologiques. C'est ça qui va découler de l'usage répétitif de l'IA. Parce que un abonnement Midjourney, c'est 20€ par mois. ChatGPT, je crois qu'on est à peu près sur le même truc. Une couverture de livre, ça représente pour un auteur illustrateur 500€. Sauf que comme il est dans des contrats d'édition, et je pense que c'est globalement les mêmes contrats que vous signez les scénaristes, ça veut dire des contrats extrêmement rémunérateurs, extrêmement équilibrés, parce que vous avez la chance de signer avec des co-contractants qui jouent le jeu du partage de la valeur. Évidemment, tout ça est ironique, mais concrètement...
Dans le multiverse, peut-être, oui.
Oui, voilà, c'est ça. Mais concrètement, nous, ces sommes, elles sont précieuses parce que sinon, vous ne pouvez pas continuer à vivre de votre activité professionnelle d'illustrateur. Demain, si j'ai un illustrateur qui est en concurrence avec Midjourney, ça va être compliqué pour lui de dire qu'il prend 500€ pour une couve quand l'éditeur, il peut en générer, je ne sais pas, peut-être 1000 dans une journée pour 20€ par mois.
En fait, là, on touche à l'aspect un peu politique de la question, c'est-à-dire finalement deux scénarios, le scénario un peu catastrophe que tu dessines là, en nous expliquant tout ça, le scénario plus protecteur qui pourrait justement permettre de trouver la bonne nuance, ça devient un choix politique. C'est quelle culture et quelle industrie culturelle on veut, et du coup, quels sont les outils qu'on met en avant pour les défendre. Vu l'état du monde aujourd'hui, ça rend pessimiste. Je fais un appel du pied à Madame la ministre, justement, puisqu'on en parlait, pour qu'elle s'intéresse à ces questions.
Non, mais puisqu'il y a toujours un avocat du diable dans nous trois, je vais le faire là deux secondes. Quand Photoshop est arrivé, ou que la photographie numérique est arrivée, on a dit que ça allait supprimer le métier de photographe, pellicule. Et puis finalement, bon, bah, ça s'est re-réparti. Il y a eu effectivement certainement des dommages collatéraux énormes, mais le métier de photographe s'est renouvelé. Et nouvelles vocations sont nées. Ensuite, il y a eu ceux qui faisaient les retouches photos, qui les faisaient en deux temps, trois mouvements avec des clics automatiques, et puis ceux qui passaient la journée par photo. On a toujours su se renouveler. C'est toutes les révolutions créatives. Alors, celle-ci, pourquoi elle, voilà, est-ce que finalement les photographes ou les illustrateurs d'aujourd'hui, ce ne sont pas ceux qui sauront se servir de l'IA pour le faire plus vite et en faire plus demain? C'est une vraie question.
Moi, je vois deux choses. Alors, je vais faire vraiment, du coup, je vais être vraiment celle qui est hyper pessimiste. Hein. Je suis vraiment désolée par avance.
Je suis le monde des bisounours. Il n'y a pas de souci.
C'est parfait.
Ce qui me fait très peur, moi, c'est surtout que, déjà, pour être scénariste et en vivre, je crois qu'il y a une étude qui était sortie pour dire que c'est en moyenne 6 ans avant de commencer à remplir le frigo.
10.
Bon, certains disent 10, mais en gros, c'est compliqué. Donc, ça veut dire qu'on a, parmi les créateurs et créatrices, plutôt des personnes qui, il faut espérer, hein, ont la possibilité de rester pendant quelques années sans rémunération, sans quoi elles ne pourront pas devenir scénaristes professionnelles. Donc ça veut dire que c'est déjà des activités qui, globalement, sont plutôt réservées à des franges socio-professionnelles favorisées. En tout cas, il y a toute une partie de la culture qui, visiblement, n'est pas représentée, puisqu'il faut être... Voilà, il ne faut pas avoir de problème de logement, ou, enfin, ça va être de plus en plus compliqué. Ça, c'est un premier point. Et le second point, c'est qu'à mon sens, on a déjà, nous, un problème dans le livre qui est la surproduction. Alors, c'est très bien que les gens écrivent, c'est superbe. Mais attention, surproduction, c'est aussi invisibilisation. C'est aussi manque de temps pour rencontrer un public. Nous, les bouquins, ils restent 3 semaines, 3 mois sur les étagères des libraires. Les libraires sont devenus des manutentionnaires à ouvrir des cartons, à les fermer et ensuite à les envoyer au pilon. Concrètement, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on va se retrouver avec une overproduction qui risque de créer un phénomène d'éviction et donc encore de laisser beaucoup de gens sur le côté qui ne pourront plus en vivre professionnellement de ces activités. Donc qu'est-ce qu'on veut en fait ? C'est ça qui me fait peur, moi. C'est que ce soit des métiers privilèges qui soient exercés par une petite poignée de gens qui en feront une activité de loisir lettré, quoi.
C'est déjà un peu le cas. Enfin, je ne sais plus d'où ça vient, cette donnée qu'apparemment, il y a 90% des fictions télévisées, audiovisuelles françaises sont faites par une toute petite poignée de scénaristes qui se partagent un énorme gâteau. Ouais. Voilà, c'est ça.
Il a besoin de 10% demain de la masse, des ressources humaines, et il aura besoin, il lui faut 5 ans pour faire un film, il aura besoin que 180 jours.
Oui, alors après, ça existe déjà. Hein. J'aimerais vous lire un petit extrait. Ce sont les propos d'un responsable de développement dans une société de production. C'est source d'une étude SACD sur notamment les risques au travail pour les scénaristes, une étude globalement sur la profession. Et cette personne dit, voilà, certains auteurs ne se rendent pas nécessairement compte du public à qui on s'adresse. Ils n'en sont pas l'audience eux-mêmes, ce qui ne les empêche pas d'avoir de bonnes idées. Et donc, pour l'écriture à proprement parler de scénario, souvent on a mis ce qu'on appelle un faiseur. Ce sont des auteurs qu'on connaît bien, qui nous connaissent, qui travaillent vite. Cela permet de faire correspondre le texte à nos besoins sans trop de difficultés. Autrement dit, vous contractualisez avec un producteur, vous avez une bonne idée, on vous l'achète, on vous met un coup de pied au cul, et après on met un autre auteur pour finir le travail et l'adapter sans qu'il se pose trop de questions, sans qu'il soit trop retors, sans qu'il soit trop difficile à la tâche. Et donc, à partir du moment où on aura des IA aussi qui seront capables possiblement de réécrire, de retravailler dans le sens souvent de producteur, peut-être que les scénaristes faiseurs seront remplacés par une IA. Donc on voit bien que déjà aujourd'hui, on a tendance, pour une partie de la réécriture, pour tout ce qui n'appartient pas à la création elle-même, c'est-à-dire la part d'originalité qui appartient à l'auteur, à essayer de trouver des gras de papier qui réécrivent facilement et qui remplacent les auteurs et qui connaissent finalement mieux aussi les contraintes économiques des chaînes, notamment, puisque là, en l'occurrence, il s'agit plutôt des chaînes.
Je vais faire monsieur actualité pessimiste pour le coup, pour aller dans ton sens, Stéphanie, mais j'ai découvert encore hier, grâce à la newsletter de Gilles, on va faire de la pub encore, mais qu'une start-up suisse vient d'inventer une IA qui va analyser les scénarios que les producteurs reçoivent pour déterminer le casting, pour faire le plus de box-office et puis le potentiel box-office, etc. Donc on va aller dans un monde où le tri va se faire comme ça aussi. Les producteurs vont nous dire on reçoit trop de choses, on va filer à une IA, elle va nous dire ça va te faire de la thune, on va aller choisir ces trucs-là. Donc ça, c'est dangereux aussi.
Ça, sur les dossiers de candidature, c'est déjà le cas. Dans les entreprises en RH, les CV sont maintenant triés par des IA qui déterminent s'il y a le bon parcours en amont, parce qu'ils en reçoivent trop, ils n'ont pas le temps. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Donc ça fait un pré-tri, ça ne fait pas le tri final, mais voilà.
Est-ce que c'est que ça devienne le tri final, c'est ça en fait.
Ça va.
Alors moi j'ai fait l'expérience de donner
les gens des RH veulent pas perdre leur boulot non plus.
je fais l'expérience de donner deux, trois projets à ChatGPT pour lui dire, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait pour en faire un succès populaire? Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça soit plus universel? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que... L'IA ne se pose pas de questions, elle vous fait des suggestions. Qu'est-ce qui marche bien en général avec le public? Quelle trame émotionnelle serait intéressante d'injecter éventuellement dans l'histoire? Donc ça, c'est aussi une autre problématique. C'est qu'effectivement, à partir d'images, on peut demander aussi, à partir de projets de base, on peut demander effectivement ce que prétendument une IA pourrait suggérer en fonction des résultats de l'analyse des meilleurs films au box-office, d'infléchir, on va dire, le projet initial vers quelque chose de plus commercial.
C'est là que l'éveil des consciences et du public est important, parce qu'au final, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quelle est la demande. Finalement, à un moment donné, c'est le public qui parle, c'est les audiences. Donc si tu fais ça, là, le truc du 48 heures AI samedi, donc tout le monde a assumé avoir écrit son scénario avec ChatGPT, pour le coup, c'était le deal. Mais il y avait, dans le 48 heures, il y a toujours trois éléments imposés. Hein. Donc il y avait un objet, c'était un vieux livre, il y avait un personnage, c'était Elon Musk. Et il y avait une phrase qui disait « Est-ce que c'était vraiment mieux avant ?» C'est juste lunaire. On a, sur les films en compétition, mais tous la même histoire. Quoi. Le vieux livre, il apparaissait toujours de la même façon. Elon Musk, bon, bah, c'était toujours un milliardaire fou. Y avait quand même ce truc-là. Donc à un moment, en tant que spectateur, là en tant que jury, mais en tant que spectatrice lambda, ça m'a fait chier. Quoi. C'est-à-dire qu'au quatrième, j'étais là... Ok, bon bah, ah, c'est une femme cette fois-ci. Alors, il y avait pas de, voilà, ça, on a dégenré, on se dit que c'était la patte humaine. Ils se sont dit, bah, peut-être que là, on va le mettre en. Donc, c'est là où vraiment, je pense que c'est le public qui va faire la
mash-up. Hein. Ouais, il y a un mash-up programmé aussi. Hein. L'IA, elle est sans doute.
C'est peut-être mathématique.
Elle le saurait. Voilà, c'est ça. C'est que pour l'instant, elle tourne sur elle. Donc, nécessairement, il ne faut pas lui demander d'inventer un nouveau style musical ou d'être dans, je sais pas, un chef de file d'un courant littéraire qui nous serait extraordinairement incroyable. Quoi.
On va avoir besoin, ce cas de transparence. Alors, de transparence, ça pourrait être aussi sur le tournage, hein, de savoir quels sont les films qui ont été tournés entièrement dans le réel, sans décor numérique, sans effets spéciaux. Peut-être qu'il y aura à terme un label qui dira Reel 5, vous êtes peut-être dans un film entièrement synthétique, et Reel 1, vous êtes peut-être tourné entièrement en réel. Et de la même façon que pour le scénario, on aura peut-être besoin d'un label pour dire finalement écrit 100% par un humain ou écrit à 90% par une intelligence artificielle, sachant que dans un premier temps, ça concerne surtout... tout le cinéma commercial, grand spectacle, ce qui pour moi n'est pas du tout péjoratif hein, dans ma géographie, mais c'est pour moi les films plutôt à l'ouest, hein, c'est du côté du couchant, du grand spectacle bien visuel avec des beaux ciels voilà, bien rougeoyants, et puis les auteurs à l'est qui eux sont prétendent éclairer le monde le matin et les réveiller avec leurs idées lumineuses, voilà, sont encore... un petit peu préservé pour l'instant, mais pour autant, c'est vrai que je pense qu'il y aura certainement aussi une part d'éducation oui, du public et d'information, de transparence qu'on doit au public.
Oui, j'en parlais avec ma compagne hier soir et elle m'a dit quelque chose de très intéressant, c'est que on va peut-être arriver dans un monde où aujourd'hui on dit sur les affiches ceci a été photoshopé, machin. Est-ce qu'on va pas arriver dans un monde où on aura ceci a été créé par un humain, quoi? Et c'est ça qui est un peu vertigineux pour moi aujourd'hui. Mais pour revenir sur le juridique, l'Union européenne a dit vouloir, enfin a ouvert la possibilité d'un cadre légal pour réguler l'intelligence artificielle. Mais du coup, concrètement, je rebondis sur ce que tu évoquais, Stéphanie, avec le Japon. Quelle véritable implication va-t-elle être possible au niveau mondial si l'Europe régule de son côté ? Mais qu'à côté, on continue à faire n'importe quoi, en fait.
Ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est vraiment le nœud, parce que nous, quand on a vu les premières illustrations Midjourney, aussitôt, on a rencontré avec les collègues de la Ligue des auteurs pro, on a rencontré les responsables politiques en charge des questions numériques à Bercy, qui nous ont dit, oui, mais attendez, nous, on veut être aussi le paradis des développeurs d'intelligence artificielle, parce que l'IA, c'est aussi génératif d'emplois et d'argent. Et qu'il ne s'agirait pas que tout parte du côté des États-Unis ou du côté du Japon. Alors ça, c'est une première donnée, effectivement. C'est qu'il faut avoir une législation qui ne soit pas trop obstacle. Mais vous voyez, on a aussi les mêmes questions en droit du travail. Hein. Moi, je suis spécialiste de droit du travail par ailleurs. Quand on me dit le droit du travail, le code du travail ne peut pas être trop gros, sinon ça empêche la compétitivité des entreprises, bah ouais. Bah oui, mais il y a des modèles économiques qui sont tellement pourris socialement qu'il faut aussi empêcher qu'ils se développent. Donc, vous voyez, c'est une question de politique culturelle, pour le coup. Et en ce qui concerne la position de l'Europe, c'est qu'il y a bien l'IA Act qui est en cours. Alors, il a été arrêté. On attend quand même encore la version rédigée, publiée, parce qu'il semblerait qu'elle ne fasse toujours pas complètement l'unanimité. Donc on voit bien qu'il y a aussi des tenants et des aboutissants, ça nous échappe complètement. Et c'est comme tu l'as dit, c'est l'IA en règle générale, donc militaire, médical, dans le domaine agricole, et donc parmi celles-ci, l'IA générative de contenu. Mais concrètement, ça va être trop de propriété intellectuelle versus un empêchement aux développeurs d'IA de se bâtir des structures en Europe. En fait, on ne veut pas un exode des. En fait, c'est économique et c'était la même chose pour les startups quand la France a dit qu'elle devait être la terre d'accueil des startups.
C'est toujours le même schéma.
Voilà, c'est toujours le même schéma qui se reproduit. Et le Japon, aujourd'hui, s'il est aussi permissif avec l'IA, c'est parce qu'il a retenu les leçons du passé et qu'il a complètement raté sa révolution post-2000. Donc, voilà.
Oui, la problématique qu'on a, c'est effectivement la politique qui doit être fer de lance de la défense des auteurs. Alors après, il y a des déclarations politiques. Seront-elles suivies d'effets ? Point de suspension. On se souvient de la Convention citoyenne sur le climat.
Qui a été suivie d'effets.
Qui a été suivie d'effets, comme vous le savez. Il y a des
déclarations du rapport Racine aussi.
Le rapport Racine.
Le rapport Racine. Il y a une commission interministérielle sur l'IA où est présente une représentante des auteurs, Alexandra Bensamoun, face dans cette commission à trois représentants de l'entreprise Mistral, qui est l'IA française, avec un débat autour aussi de la participation de Cédric O, ancien ministre qui est aussi actionnaire de Mistral. Bref, vous voyez que les lobbies sont en bonne place de part et d'autre, y compris en Europe. Pour ceux qui connaissent le Parlement européen, vous savez que les lobbyistes font la queue chaque matin pour rentrer et aller rencontrer les députés au sein même de l'Europe. C'est au moins transparent, on sait qui rencontre qui, a priori. Mais ça n'empêche que tout le monde est bien sûr en train de ferrailler de son côté pour essayer de faire que la partie soit la plus sympathique pour son propre business. Et nous, les auteurs, nous avons besoin actuellement que les auteurs, vous soyez syndiqués, que vous soyez dans des organisations pour faire entendre votre voix. Je vous rappelle qu'il y a une consultation sur le site, sur l'application Agora, l'application de communication avec le gouvernement, où pendant encore 4 jours, vous pouvez donner votre avis en tant que citoyen sur les problématiques autour de l'intelligence artificielle. Et ce serait bien que les auteurs, fassiez votre part de ce travail en allant répondre aux questions et contribuer à la réflexion. Donc on a besoin de tout le monde, et encore plus les auteurs et les organisations d'auteurs en ce moment, parce que vous voyez qu'en face de nous, on a quand même des gros consortiums et des gens qui ont tous les moyens et beaucoup d'argent pour payer des lobbyistes et des gens pour mettre enfoncer le coin du côté effectivement qui est favorable pour eux.
Oui, je finirais juste sur d'autant plus important de se syndiquer et puis de participer à ce genre de questionnement que je rebondis sur une dernière actualité avant de passer la parole au public, mais j'ai lu récemment, justement sur le réseau du syndicat dont je fais partie, que la France a créé un comité de réflexion autour de l'intelligence artificielle dans lequel il y a des cadres de différentes sociétés, notamment Meta, Facebook, qui a déclaré par ailleurs sur ses réseaux personnels, cette personne, « Oh, bah, de toute façon, dans le milieu du livre, les auteurs perçoivent tellement peu d'argent. Pourquoi est-ce que... » Enfin, c'est négligeable, quoi. On devrait mettre tous les livres à disponibilité gratuitement au titre du patrimoine de l'humanité, quoi. C'est pour vous donner un peu l'idée des dérives potentielles que peut créer ce genre de pratique. Donc, il est effectivement important de monter au créneau, quoi. Je pense que ce sera une belle conclusion.
Je pense que c'est ça. C'est, à mon avis, moi, c'est d'exiger un statut professionnel protecteur. Et je crois qu'il y a une responsabilité des producteurs, des éditeurs, de tous ces co-contractants qui ne doivent pas oublier que leur valeur est liée à la valeur de la propriété intellectuelle et qu'il ne s'agirait pas de scier la branche sur laquelle ils sont assis. C'est quand même important de se dire que là, pour le coup, on devrait être normalement main dans la main. Malheureusement, il n'y a pas assez d'initiatives communes et souvent, il y a beaucoup d'éditeurs là, chez nous qui recourent à l'IA pour générer des illustrations et on le regrette. J'allais dire amèrement, mais je vais finir par un mot positif, vivement. Vous voyez ?
Et est-ce qu'on peut espérer, un peu comme là, c'est en train de... Alors, quelle est la part de bullshit, de greenwashing, etc. Mais de plus en plus, quand même, on a, par exemple, dans la prod, l'éco-prod qui se développe, des labels comme ça, etc. Est-ce qu'on peut espérer qu'à un moment, bah, en créant ce type de label, on arrive à avoir des prods qui signent pour des... un human label, je ne sais pas, et que du coup derrière les entreprises ou les commanditaires des films, parce qu'on parle de fiction, mais il y a aussi toute la production publicitaire, corporate, etc., que je connais bien, qui se disent, bah, nous maintenant, dans notre rapport annuel de 2025, on a mis qu'il fallait qu'on ait recours uniquement, bah, là c'est des éco-prods en ce moment, mais à des human prods, voilà, et qui fassent qu'au bout du bout, on ait un label, un truc qui fait que, voilà, effectivement, on ne scie pas la branche à laquelle on est, et tout le monde s'y mettre. Et c'est vraiment une question de transparence et d'envie de toutes les... Parce que nous, forcément, les scénaristes, les réalisateurs, on est pour, forcément. Mais il y a vraiment toute la chaîne de création qui est en jeu.
À nous, donc, d'être force de proposition, si possible, sans avoir recours à l'IA pour nous aider à trouver ces propositions. Ni à la violence. Et en parlant de propositions, bah, je vais me diriger vers le public. Et si vous avez des questions, bah, écoutez... je vois une main qui s'est levée très spontanément, très vivement. Tout au fond...
Le micro arrive, merci.
Bonjour, moi je me permets d'intervenir par rapport à ma situation. Je suis agent artistique et j'ai systématiquement des contrats qui doivent être retoqués par ma collaboratrice juridique parce que les contrats sont illégaux dans le droit français souvent, parce qu'ils utilisent justement l'intelligence artificielle pour leur droit à l'image ou des choses comme ça. Et donc moi, ma question, c'est aussi même par rapport aux productions françaises qui travaillent avec ces plateformes-là, qui elles-mêmes se mettent dans l'illégalité parce qu'elles acceptent de faire signer des contrats qui vont dans le sens de ces plateformes-là. Donc déjà, d'une, comment font les productions françaises pour être dans ces espèces de flou et c'est quoi la façon de se protéger pour elles? Et par rapport aux comédiens... j'ai souvent affaire à des plateformes qui disent « Ah ben, s'il n'accepte pas de signer le contrat, il ne fera pas ce projet-là. » Mais donc, comment on fait pour se protéger, nous, pour ne pas accepter qu'ils doivent donner leur image ad vitam aeternam et qu'ils puissent l'utiliser pour n'importe quel projet, à quel point on peut se protéger à ce niveau-là?
Bah, je dirais, pour répondre à la première question, que les contrats qui sont pour l'instant générés, qui sont, dont la sécurité juridique pose question, ceux-là seront sans doute amenés à évoluer sitôt qu'on aura les premières jurisprudences ou d'autres réglementations qui viendront en ligne de compte. C'est évident. Là, on est un peu à tâtons. Hein. Moi, je commence à rédiger des clauses. D'ailleurs, j'en profite pour dire que demain, on fera un hackathon pour justement présenter un clausier type de façon à venir au service de l'ensemble des auteurs et autrices de tous les milieux de la création pour justement faire face à ces usages possibles. Vous voyez, nous, on a des illustrateurs qui veulent tout simplement pas qu'on absorbe tout leur contenu pour faire la suite quand ils seront plus de ce monde. Parce qu'on pourrait imaginer qu'après tout, on n'a plus besoin d'eux et on pourrait générer comme ça des contenus. Voilà. Donc concrètement, ce qu'il faut faire, c'est exiger déjà de lire le contrat papier, parce que vous savez, maintenant, les pratiques, si on vous les envoie en numérique, vous pouvez même plus les réécrire. Et ensuite, vous avez juste à les signer, à les renvoyer. Là, il faut vraiment entrer en phase de négociation individuelle, dire j'ai des exigences à propos de l'usage de mes contenus ou de ma personne, parce que là, vous parlez du comédien, donc c'est son image, c'est sa voix, etc., etc. Et donc, c'est se rapprocher de vos organisations professionnelles qui œuvrent actuellement sur la mise en place de clause type pour vous appareiller les auteurs et autrices. Donc il faut vraiment se rapprocher de vos OS. Ça, c'est important.
C'est important effectivement de voir, de faire relire vos contrats, d'une part parce que les syndicats, ça leur permet de savoir quels sont les contrats qui sont proposés actuellement. On joue le rôle d'observatoire aussi, et donc vous êtes d'une certaine façon lanceur d'alerte quand vous soumettez vos contrats au syndicat. Est-ce que c'est bien normal ça? Et nous, ça nous éventuellement nous interpelle et nous permet de réagir. Deuxièmement, c'est aussi très important de, en général, faire voir vos contrats à des professionnels, tout simplement parce que le plus dangereux n'est pas la clause qui existe dedans. Ça, on peut la voir. C'est la clause qui manque, qui par définition est plus difficile à voir. Donc je plaide moi toujours pour que les auteurs se rapprochent d'organisations professionnelles, de professionnels du droit, éventuellement de la SACD, d'autres organisations qui permettent au moins dont l'attention peut être attirée par des choses effectivement qui évolue en complètement en dehors de cadre ou dans le flou actuel qui peut résider du fait de ce genre de choses. Après, sur la question, vous parliez de l'usage des clones, on va dire, de comédiens, pourquoi pas, ou ce genre de choses. Là, je renvoie à ce qui s'est passé aux États-Unis. Vous avez la WGA et d'autres organisations qui ont finalement décrété que par épisode, il devait y avoir un minimum de scénaristes humains embauchés, etc., etc. Donc là, je pense qu'on doit s'acheminer vers la même chose en France. Encore une fois, c'est la fameuse question de ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire d'un label humain posé sur les créations. Et là, c'est la même chose, c'est imposer, quoi qu'il arrive, l'humain, même si la machine est utilisée à des degrés divers, mais il faut que ça soit transparent, et il faut, en tout cas, une fois, que ça ne soit pas au désavantage des créateurs et de l'esprit humain.
Merci. Revenir par rapport aux productions, justement, c'est-à-dire que, moi, par exemple, ma collaboratrice juridique me dit « ça, c'est illégal, donc ça, il faut enlever la clause », mais la production française dit « non, ils nous mettent la pression, donc il faut le signer, machin ». Mais donc, elles se mettent elles-mêmes dans l'illégalité, les productions. Alors, comment elles font après, derrière, si ça devient un serpent qui se mord la queue, et elles se mettent en danger elles-mêmes aussi, les productions. Voilà.
Oui, mais bien sûr, évidemment. Mais ça existait bien avant l'intelligence artificielle, de signer des contrats avec des clauses qui n'étaient pas légales. Donc, on prend un risque, en fait, parce qu'au fond, un contrat, quand est-ce qu'il devient illégal réellement, c'est quand on passe devant un juge pour dire, en l'état, la clause n'a pas de valeur juridique, elle est nulle. Et donc on vient annuler en quelque sorte cette disposition contractuelle. Mais encore faut-il aller devant le juge. Parce que en l'état, dans le monde de la création, il y a énormément de contrats qui, j'en vois au quotidien passé, qui disposent de stipulations qui sont nulles, sans effet juridique, mais qui, comme elles s'imposent à des gens qui l'ignorent complètement, ne sont pas annulées et ne sont pas remis en cause.
Et on n'est pas à l'abri aussi de clauses qui finissent par faire jurisprudence pour toute la profession. Ça s'est vu dans le domaine du livre, ça s'est vu dans d'autres domaines. Donc il faut faire attention aussi à ce que... C'est pour ça que votre vigilance à vous, la vigilance des organisations syndicales est importante, parce qu'on ne peut pas laisser proliférer certaines façons de faire qui peuvent après faire devenir une norme pour tout le monde. Et donc après, l'ensemble des producteurs sont aussi organisés en syndicats et en organisations professionnelles, et bien sûr, c'est à chaque fois des discussions entre les organisations professionnelles d'auteurs, de producteurs, etc., qui permettent de réglementer, réguler les choses. On est enfin arrivé ces dernières années, par exemple, à définir précisément ce que c'est qu'un pitch, une réécriture, etc. C'est quand même assez tardif, mais on y est arrivé un peu sur le modèle de ce qui se passe avec le code de la WGA aux États-Unis. Donc voilà, les choses s'organisent, mais à condition qu'il y ait des organisations et des auteurs qui se syndiquent pour pouvoir, derrière, avoir la force de frappe et de résistance face à des lois, les lois de marché.
Ça, c'est un complot des juristes, en fait. C'est uniquement pour travailler.
Est-ce qu'il y a une autre question, du coup ? Ou d'autres questions au pluriel ?
Question, oui. Madame.
Merci. C'est pas vraiment une question, c'est plus avoir votre retour, parce qu'on n'en a pas forcément parlé, mais souvent, le métier, enfin même presque dans tous les cas, le métier de scénariste, c'est un métier passion. Est-ce que ça n'enlève pas le côté sens à notre travail, parce que moi je sais que dans ce métier, ce que j'aime, c'est justement de creuser la tête. Est-ce que donc le fait de le faciliter, d'avoir des raccourcis, ça n'enlève pas en fait une quête et le sens même du travail de scénariste?
Alors moi je vais mon avis personnel, et je pense qu'on aura des avis différents, ça va être intéressant. Moi je n'aime pas ces outils, ça m'intéresse pas. J'aime le côté justement un peu besogne de base, se creuser la tête, être tout seul avec son esprit. Et j'aime beaucoup travailler à plusieurs et dans l'échange oral. Il y a un peu ça quand tu chattes avec ChatGPT, etc. Mais...
Non, mais attends, je crois que j'ai dû avoir l'air d'une pro ChatGPT, mais alors on s'est complètement mal entendu.
Peut-être que tu vas me dire des trucs un peu moins radicaux que moi, c'est ça que je voulais dire. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est vrai que ça ne m'intéresse absolument pas, ces outils-là, pour ma pratique personnelle. Voilà, ça, c'est ma position, et je pense que c'est celle de plusieurs scénaristes. Mais j'espère qu'il y a des contradicteurs ou des gens qui ont d'autres oppositions.
Non, moi, je vous rejoins. Et je te rejoins. Cependant, je mets un gros guillemet, c'est que Moi, ce que j'ai en conscience, même si je suis le premier à me dire j'adore me creuser la tête, il faut que ça reste humain, etc., c'est la question de la compétitivité et de l'opportunisme qui me fait peur, moi. On fait un métier qui fait beaucoup fantasmer, en fait. Il y a déjà un peu ce fantasme de tout le monde peut être auteur, tout le monde peut écrire. Du jour au lendemain, c'est bon, un scénario, c'est pas compliqué, c'est pas un métier, etc. Et ça va nourrir ce truc-là aussi, c'est se dire, bon, bah, s'il suffit de mettre un prompt dans le ChatGPT puis il me sort un scénario, bah, pourquoi je le ferais pas, en fait ?
Ils sont à chier, les scénarios.
Voilà, pour l'instant, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on peut aller dans ce truc-là de se dire, ok, ça va peut-être faire de moi un super auteur, tu vois, autre chose, ce genre de choses. Donc je me méfie de ce côté-là, mais moi, je vous rejoins complètement sur ça.
En fait, il y a un point que je trouve vraiment très important dans ce que vous dites, c'est la passion. Mais en fait, je ne sais pas comment vous pouvez exercer votre métier, mais moi, je suis forcément tiraillée entre la partie passion et la partie lucrative pour pouvoir payer mon loyer tous les mois. Et pour ça, je suis obligée de diviser mon travail entre mes projets personnels, qui sont longs, qui sont sur plusieurs années, où on croit que ça va se faire, puis ça ne se fait pas, enfin, je vous apprends rien, et des projets de commande. Où là, bah, on me demande quelque chose avec un brief, avec un besoin, un retour assez rapide, etc. On n'a pas toujours la chance d'avoir des co-auteurs, encore une fois, parce que bah, les co-auteurs, ça coûte cher, donc on nous demande d'être tout seul. Et moi, le seul point, parce que mes projets personnels, j'ai besoin de personne pour les écrire. En fait, je suis inspirée, j'imagine, comme vous. En fait, l'inspiration me vient, parce que c'est un projet qui me tient à cœur, parce que c'est quelque chose que j'ai envie d'écrire, que j'ai envie de raconter. Malheureusement, parfois, dans mon métier, pour pouvoir continuer à le faire, j'ai besoin d'écrire des choses sur lesquelles je suis moins inspirée. Et pour ça, ChatGPT, ça peut être un outil, voilà, encore une fois, plus un ping-pong, pas la réponse à tous mes problèmes, juste un déclencheur, un début de brainstorm.
Tu gagnes du temps que tu peux réinvestir sur tes projets personnels.
Exactement.
Après, je suis très contente d'entendre Laura, pardon. Désolée.
Non, je me disais, moi, c'est la même, en fait, il y a des choses que je choisis, enfin, je suis obligée de faire pour vivre, etc., mais je trouve justement qu'on peut trouver des moteurs dans tout. Et même des commandes. Et ma crainte, c'est plus que ChatGPT enraye notre propre moteur de pourquoi
mais
on le fait.
Ça, c'est l'usage que vous en faites. C'est comme l'alcool. Si tu en bois deux verres à une soirée, il n'y a aucun souci. Si tu te tords la tronche tous les soirs, il y a un problème, tu deviens alcoolique. Je pense que ça doit être un outil parmi toute la valise d'outils qu'on a, nous, en tant qu'auteur, pour lutter contre le syndrome de la page blanche, pour trouver l'inspiration. L'inspiration, tu vas la trouver en te baladant dans la rue et en tombant sur une scène entre deux personnes. Ça, c'est un outil. Ça va être aussi l'écriture automatique, d'écrire 5 pages tous les matins. Et ça peut être aussi, parfois, ChatGPT. En fait, moi, mon point, c'est laisser cette IA, enfin ces IA, à là où elles doivent être. C'est un outil parmi plein d'outils que tu vas piocher, parfois, quand on a besoin, parce que là, tu n'as pas d'autre solution et que tu as une urgence, une contrainte, une deadline. Moi, ça, c'est l'usage que j'ai aujourd'hui. Et ChatGPT, des fois, il se passe des semaines, des mois sans que je m'en serve. Et puis, un jour, je me rappelle même à son bon usage. Je me dis, putain, c'est vrai, je peux lui demander. Je vais lui demander, tu vois. Je vais voir ce qu'il me répond, comme tu demanderais à ton mec ou à ta meuf le soir, au dîner, tiens, je dois écrire un film, là. Je bloque, et puis c'est cette personne qui va te dire un truc. Et son idée, c'est pas l'idée que tu vas mettre en place, mais elle va te faire penser à une autre idée. Donc, moi, c'est juste ça. Pour moi, c'est un outil dans ma boîte à outils.
C'est ça. Moi, les formations sur justement la créativité et comment bien démarrer un projet, je présente une dizaine de techniques pour justement arriver à développer les projets, les réfléchir et générer de la créativité. Ben, j'ai intégré un 11e qui est ChatGPT, mais ce n'est qu'un outil parmi d'autres qui peuvent être simplement des exercices de créativité, des outils qu'on peut utiliser par ailleurs. Je parle de mind map, de système de questions, etc. Voilà, c'est simplement un outil parmi d'autres. Évidemment, après, on a des auteurs qui seront plus paresseux que d'autres. On a des auteurs qui sont, encore une fois, dans ma géographie, plus à l'est, c'est-à-dire des auteurs qui écrivent vraiment des films d'auteurs, des films très personnels, et des auteurs plus à l'ouest, du côté du grand spectacle et des films un peu plus automatiques, et des sequels, des préquels, des reboots, etc., et des grandes licences ou des grandes comédies populaires. Et peut-être que là, on aura un peu plus d'intelligence artificielle. Du moment qu'il y a une transparence, moi je plaide beaucoup pour la transparence, encore une fois, dans ce que nous on fait, dans ce que les producteurs achètent et vis-à-vis du public. Voilà, après le plaisir pur de créer, on est d'accord que voilà, il appartient à chaque auteur qui aime faire son métier. Et c'est là où pour moi l'intelligence artificielle n'est entre guillemets pas un problème, dans la mesure, l'est sur le plan juridique, parce qu'évidemment on s'oppose à la question de, encore une fois, l'œuvre de l'esprit au sens de la convention et du droit de la propriété intellectuelle, mais elle n'est pas un problème en général dans la mesure où ça aidera presque à faire le tri entre les mauvais auteurs et les bons. Voilà, et qu'il n'y a rien de déshonorant pour un auteur s'il sait utiliser intelligemment l'intelligence artificielle comme un outil, de l'utiliser comme il aurait un assistant, un stagiaire ou quelqu'un qui serait un co-auteur et qui serait un peu un ping-pong et ferait un peu le ping-pong. Ok, c'est pas un problème. C'est pas ça de toute manière qui fait l'œuvre de l'esprit. Encore une fois, jusqu'à présent, et encore à mon avis pour un petit moment, la machine n'a pas de point de vue. D'accord ? Et ce qui fait l'œuvre en général, c'est le fait qu'il y ait un auteur et un point de vue. Donc, que vous sachiez raconter une histoire, ok, l'intelligence artificielle est capable en partie de le faire aussi. Par contre, que vous décidiez réellement d'un point de vue singulier, original, ça c'est votre propre création et la machine ne l'a pas. Et jusqu'à preuve du contraire, elle aura vraisemblablement celle que son créateur aura donnée comme moralité. Mais évidemment, tout ça est soumis à la bonne volonté du créateur et aux bornes et aux interdictions et aux tabous qu'il met à la machine. Donc, c'est là où on a notre liberté, en vérité. Donc, c'est intéressant, je pense, l'intelligence artificielle, parce qu'elle nous aide, justement, elle nous oblige à nous interroger sur notre part de liberté, de créativité, d'originalité que la machine, elle, n'est pas capable d'apporter. Et elle en fait la démonstration chaque fois que vous l'utilisez. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème.
Merci. C'est plus la corrélation économie du contrat et recours à l'IA, à mon sens, qui va être pertinente à l'avenir, parce que on le sait, le travail de création en tant que tel n'est pas rémunéré, n'est pas encadré. Et moi, j'ai des illustrateurs qui commencent déjà à me dire, si le contrat d'édition ne paye pas, il n'est pas question que je m'emmerde à faire des illustrations qui ne soient pas rémunérées au temps que je vais vraiment y passer. Et c'est vrai qu'il me semble que du côté des scénaristes, il y a souvent des modifications substantielles qu'on vous demande de faire. Et encore, et encore, et encore avant d'être payé entièrement, là, on se dit, après tout, pourquoi je m'emmerderais à travailler plus, parce que je ne vais pas gagner plus, quoi.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand ça fonctionnera assez bien pour pouvoir proposer un synopsis d'épisodes de Meurtra ou de je ne sais quelle série animation jeunesse pour bluffer les prods et les diffuseurs, c'est sûr que tous les scénaristes vont se jeter dessus, peut-être moi le premier, comme vous disiez, par opportunisme pécunier, parce qu'il faut vivre aussi, tout simplement.
Je veux dire que le producteur va se jeter dessus pour se
débarrasser
de toi.
C'est exactement ça le problème.
Eh bien, ça reviendra au même, parce que de toute façon, il m'aura tège en cours de haut d'écriture pour mettre un de ses copains qui est là depuis 10 ans. Donc,
ça changera rien, tu ne seras pas payé quand même.
Voilà, désolé pour le cynisme.
Une autre question peut-être. Ou d'autres. Oui, devant.
Là. Monsieur.
Oui, bonjour. Moi, j'avais une question, savoir si j'ai entendu que vous parliez de formation. Moi, j'ai utilisé un peu de ChatGPT. Je trouve ça en effet assez minable pour le moment. Enfin, les réponses qu'il nous fait. Mais malgré tout, il y a des fois, souvent c'est ce qui est intéressant, en effet, ce que tu disais Laura, c'est dans les bugs, il y a des choses intéressantes. Moi, je voulais savoir s'il y avait des formations, des livres, des recueils, des chaînes YouTube qui nous permettent d'avoir des réponses de ChatGPT plus pertinentes.
Justement, ça va être l'objet d'un stage en 2024 avec normalement Paris Cours de Vent. Et donc on essaye de mettre ça en place. On a prévu, je crois, 2 fois 2 jours. Sur l'usage de ChatGPT pour justement avoir les process, les prompts, comment générer, comment travailler justement sur la créativité, le développement de projets au démarrage, voir quelles sont les limites aussi, bien sûr, de l'intelligence artificielle. Voilà, donc ça commence à émerger aussi parce que bah, y a des besoins et que, de mon point de vue, encore une fois, on est tous soumis à Darwin et qu'on a besoin de comprendre, de se former, au moins de comprendre, les limites, voir si effectivement ça peut être utile dans nos pratiques pour gagner en efficacité et encore une fois de s'interroger soi-même sur la part de ce qui fait de nous des auteurs. Donc c'est important effectivement d'aller y voir de plus près, en tout cas de s'y intéresser. Voilà.
Moi je voulais ajouter... ça nous arrive en tant que scénariste des fois de candidater à une aide à l'écriture, une bourse, en se disant on va essayer de faire un truc un peu passe-partout, un peu dans tendance, machin, etc. Je pense que tous les scénaristes ont au moins essayé une fois. Ça marche pas. Enfin, c'est-à-dire que dans le ressenti de la lecture, on sent bien quand même quand il y a de l'âme, quand il y a de la passion. Et on sent aussi ce qui manque à l'intelligence artificielle, à mon avis, une sociologie des auteurs. Et voilà. Et à mon avis, le cœur, il est là aussi, quoi. C'est pour ça que même si j'avais un chat GPT super efficace pour faire ma note d'intention, en fait, moi, j'ai besoin de l'écrire moi-même pour aussi processer mon processus créatif en tant que réalisateur, pour pouvoir défendre mon projet oralement quand je vais croiser des prods. Ça, l'intelligence artificielle va pas me le faire à ma place, quoi.
Tu mets en place ta réflexion en écrivant. Enfin, c'est en écrivant que tu formalises ta pensée. Donc oui.
On rappelle surtout que la note d'intention, c'est vous. D'accord ? C'est-à-dire qu'un producteur n'achète pas simplement un scénario, il est censé acheter le scénariste qui va avec et avec lequel il va travailler en développement. Donc puisque la note d'intention, c'est vous, elle doit être écrite à la première personne, ça doit être de jeu. Et c'est une manière de connaître, de comprendre votre démarche, de savoir quelles valeurs vous défendez, de savoir pourquoi vous avez écrit ça, pourquoi ça vous tient à cœur, pourquoi vous serez encore là, la 10e version, pour travailler avec le producteur, à tel point ça vous tient au corps ce projet-là. Donc ça, la machine, elle n'a pas d'avis sur la question, elle n'a pas votre motivation, et elle n'est pas vous. Donc, elle peut vous aider éventuellement à travailler, à développer des éléments de langage autour des thèmes que vous développez. Elle peut vous aider à analyser à partir du synopsis ou des personnages les problèmes moraux et de définir éventuellement des éléments de langage pour construire, nourrir la note d'intention. Mais elle ne sera jamais vous. Et donc, dans la mesure où la note d'intention n'est pas simplement un commentaire, et ce n'est surtout d'ailleurs pas un commentaire de l'histoire, mais c'est encore une fois votre expression à vous, là, la machine, elle échoue, je dirais, à pondre quelque chose de cohérent. Elle peut vous aider à développer, à améliorer un argumentaire, à reformuler de façon plus pertinente, mais ça, là, typiquement, on est au cœur de ce qui fait un auteur, c'est-à-dire le point de vue.
On va prendre une dernière question avant de conclure.
Bah, c'est juste là.
Bonjour. Alors, vous parliez de questions de point de vue de l'auteur. Il y a plusieurs mois, j'écoutais des musiques sur YouTube. C'était Johnny qui chante le générique de Pokémon, je sais quelle connerie comme ça. Et en écoutant plusieurs versions de musique générées par l'IA, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment, enfin j'avais fait le tour, ça m'intéressait plus, et c'était pas vraiment la musique que j'écoutais, mais c'est plus du contenu, de la même manière que je regardais des mèmes sur internet, c'est pareil, c'est juste l'input, il est pas de Johnny, il est pas des paroliers, il est du créateur derrière la vidéo qui s'est dit bah, je vais mélanger deux mondes comme ça, et donc c'est pour ça que je trouve que c'est différent de la musique, ça va pas être traité de la même manière. Maintenant, est-ce que dans la pratique vous pensez que le public va réagir de... Et ça peut s'appliquer aussi aux images générées par l'IA. C'est à chaque fois, si on s'inspire de quelque chose pour créer autre chose, enfin c'est l'IA qui fait ça, et ça s'applique même au scénario, même à ChatGPT. Même si les auteurs, les inspirations sont plus cachées, ça reste, c'est tout le temps quelque chose qui s'inspire de plusieurs mondes pour créer artificiellement ce qui n'est pas vraiment de l'art. C'est pas, enfin, personnellement, après avoir écouté plusieurs fois, je traite pas ça comme de, enfin, j'écoute pas ça comme de la musique. Plutôt comme du contenu, comme des blagues sur Internet, comme du contenu créé pour rigoler. Est-ce que vous pensez que dans la pratique, le public va se lasser de l'IA, va se dire, ou est-ce que ça va toujours continuer, est-ce que c'est quelque chose qui va marcher, ou soudainement notre cerveau va être entraîné à repérer ce qu'est l'IA, à se dire, ah bah non, mais ça c'est pas vraiment un film que je regarde, c'est plus une création d'ordinateur.
On peut peut-être faire des petites prédictions. Après, je ne sais pas comment vous, dans votre usage personnel des réseaux, vous voyez déjà, mais moi, je n'imaginais pas. J'ai 40 ans, je passe déjà 30 minutes par jour sur Insta qui me dit « ça fait 30 minutes que vous êtes déjà sur Instagram à scroller ou à swiper » et je me rends compte que je lis beaucoup moins qu'avant. Alors, je lis beaucoup, mais vous voyez, ce temps, on va dire, de divertissement à regarder du contenu synthétique ou pas, hein, ben, il me bouffe déjà pas mal de temps dans ma journée et je vois que c'est un temps que je ne donne plus pour accéder à des contenus, enfin des œuvres de l'esprit. Donc c'est plutôt une question de balancement entre, au sein de nos pratiques et on a un temps de concentration et je dirais qui est de moins en moins disponible. C'est plutôt ça qui me fait peur en fait.
Moi, je vais citer Robert Zemeckis qui disait en 1994 « Aujourd'hui, le spectateur ne peut plus regarder une image sans avoir conscience que c'est faux. » Et j'ai l'impression que c'est un peu la même question. C'est-à-dire que de toute façon, la vidéo en question, je ne l'ai pas vue, mais j'en ai entendu parler parce que je vois des gens commenter. En fait, on a un regard de spectateur qui est aussi un regard de curieux des coulisses. Et en fait, on va toujours essayer de savoir ce qui se passe un peu derrière les images et les musiques. Et en fait, ça va toujours être peut-être là que les choses vont se révéler. Et c'est peut-être là que ça se joue.
Oui, moi, ce que j'allais dire, c'est ça. C'est qu'indéniablement, il va y avoir une curiosité. Ça, qui va nous amener vers ça, de découvrir parce que c'est nouveau, parce qu'on a envie de savoir, parce que toutes les possibilités sont infinies, etc. Après, il y a une lassitude qui suit, toujours. Le problème, là, c'est quand est-ce qu'on va être incapable de discerner si c'est fait par l'IA ou pas. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de frontières, en fait. C'est-à-dire qu'on regardera le contenu comme du contenu et on ne se posera même plus la question. C'est ça le danger, en fait.
Et c'est ce qu'on voit dans les films. Il y a de plus en plus de jeux avec le fait de de-aging les acteurs. Le dernier Indiana Jones, où on a toute une séquence avec un Harrison Ford rajeuni numériquement, personne n'est dupe parce qu'on sait qui est l'acteur, on le connaît. DiCaprio, dans le dernier Tarantino qui apparaît dans La Grande Évasion à la place de Steve McQueen, c'est un clin d'œil avec le spectateur qui a tout à fait conscience de ce qu'il est en train de regarder, aussi convaincant soit l'image en elle-même.
Oui, je pose la question encore une fois du vrai et du faux. Ça, c'est sûr que les technologies avançant, ça sera d'autant plus difficile dans certains domaines de faire la part, de déceler les choses, simplement. Moi, je renvoie au bouquin de Bruno Patino qui s'appelle Submersion, qui parle justement de submersion de contenu auquel, cette déferlante auquel on est maintenant habitué depuis 20 ans que les plateformes ne cessent de se développer. Évidemment, devant l'océan de contenu, de séries, etc., je pense que nous sommes nous-mêmes parfois lassés de voir les mêmes histoires, de voir des choses qui sont très photocopiées, sans qu'il y ait besoin d'intelligence artificielle, d'avoir des... On vit quand même à l'ère des sequels, préquels, reboot de séries, etc.
Marvel.
Donc ça pose encore une fois la question de savoir de l'originalité, mais aussi du courage et de la force des producteurs, des donneurs d'ordre, de vouloir accepter d'avoir aussi des œuvres qui dénotent, qui soient originales, qui soient effectivement à contre-courant de, entre guillemets, ce qui marche. On est très fort, surtout en France, pour refaire ce qui a déjà été fait et pour copier. Donc ça pose la question, encore une fois, de l'implication de tout un secteur à aller chercher l'originalité. Je pense que nous tous, en tant que spectateurs, on est un peu fatigués de cette submersion avec parfois des séries qui se ressemblent beaucoup, dont nous devinons très rapidement comment l'histoire va se dérouler. Ça provient simplement du fait que, depuis la nuit des temps, les auteurs travaillent avec une douzaine de types d'intrigues. D'accord, l'enquête, l'évasion, la découverte, etc., etc. Tout ça, ce sont les 12 types d'intrigues avec lesquelles on fait toutes les histoires. Et donc, ça interroge encore une fois comment chacun arrive, à partir d'éléments bien connus, qui sont d'ailleurs manipulés par les IA, à trouver sa propre voie et faire quelque chose d'original. Donc, encore une fois, pour moi, l'IA, même si elle va générer des contenus un peu automatiques, même si elle aidera peut-être des producteurs à générer des choses un petit peu commerciales et déjà vues, il manquera derrière un esprit humain, parce qu'il va nous manquer, il va falloir beaucoup d'originalité face à cet océan de contenus mondiaux auquel nous avons d'ores et déjà tous accès.
Moi, ce que je trouve amusant à regarder, c'est qu'en 2023, où ce sujet de l'IA explose dans les conversations, c'est l'année où les deux gros succès culturels au cinéma sont deux films qui ont certes été extrêmement marketés, mais sont deux films qui ont été vendus sur leurs auteurs. C'est-à-dire le Oppenheimer de Nolan, où on a vendu ça comme un film de Nolan parce que Oppenheimer en procès pendant une heure et demie, je pense que tout le monde s'en cogne un peu. Et Barbie, qui certes est une franchise commerciale établie, mais on a vendu ça comme un film vu par une réalisatrice intelligente qui vient du cinéma indépendant. Et en fait, c'est curieux que dans le marketing, ça a été quand même des arguments. Ça n'a pas été les seuls arguments, mais ça a été des arguments de poids. Alors que c'est des gros blockbuster, quoi. C'est pas non plus des œuvres expérimentales.
Il y avait aussi Super Mario Bros. Qui a été un énorme succès. Et là, c'est l'opposé.
Lequel, pardon ?
Super Mario Bros. Qui était un énorme succès, alors que c'est un peu, enfin, c'est pas du tout un truc d'auteur.
Oui, mais alors justement, Super Mario Bros. N'a pas du tout été vendu sur les auteurs. Ça a été vendu sur la promesse d'un film, d'une adaptation qui n'avait jamais eu lieu avant, Et bizarrement, j'ai l'impression que c'est marrant, Super Mario, mais ça aurait pu être généré par une intelligence artificielle, tellement le scénario est télécommandé, quoi.
Et bien voilà, c'est sur ça qu'on conclut cette table ronde. Merci pour votre présence et merci à Stéphanie, Laura et Antoine d'avoir répondu à nos questions. Et bon festival à toutes et à tous.
Bon festival. Merci.